Bienvenue dans des goûts de bouffe.
Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
Ainsi, dans chaque épisode, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée.
Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Des Goûts de Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui s'intéresse de plus en plus au thé grâce aux nombreuses dégustations que nous organisons dans les studios des Business of Bouffe. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Oui, c'est vrai que tu nous gâtes là depuis qu'on est installé dans nos nouveaux bureaux. Tu nous prépares des petites infusions tous les jours.
Mais tu sais quoi, en fait, c'est justement grâce à notre invité que j'ai découvert la diversité, complexité et la beauté incroyable de l'univers du thé. On est avec un passionné qui depuis 15 ans sélectionne des thés des qualités directement auprès des meilleurs producteurs du Japon, au Japon, en Chine et en Inde. Nous sommes aujourd'hui dans la boutique du Parti du Thé à Faidherbe dans les 11e arrondissement de Paris avec son fondateur Pierre Lebrun. Bonjour Pierre.
Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
Salut.
Pierre, dans cet épisode des Goûts de Bouffe, on voudrait que tu nous aides à mieux comprendre l'été, son histoire, ses terroirs et sa diversité gustative. Est-ce que ça te va ?
Avec grand plaisir.
Et en voyant la table que tu nous as préparée, je suppose que tu nous feras déguster quelques thés aujourd'hui, c'est
bien
ça ?
Bien sûr, je vous ai préparé une belle dégustation.
Et justement, tu as même imaginé deux coffrets découvertes pour ceux qui souhaitent continuer l'expérience après les podcasts et continuer à découvrir tes thés, c'est ça ?
Ouais, exactement, on a préparé ça avec amour et on vous expliquera tout ça, je crois, à la fin du podcast.
On a hâte.
J'ai vu la sélection, j'ai vu du thé vert, du thé noir, du Darjeeling. Il y a même celui que j'arrive pas à prononcer, c'est les
oui, le puer.
Le puer, le ouais, puer. Voilà. Franchement,
ah, pourquoi
c'est non? Et en fait, c'est bon, je me pose même la question, c'est quoi un thé grand cru? Pierre, avant de nous expliquer tout ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement et présenter les parties du thé?
Bien sûr. Du coup, je m'appelle Pierre Lebrun. J'ai fondé le Parti du Thé avec ma femme il y a 15 ans maintenant, en 2005.
Ouais.
Ta femme, elle est là, ta femme, par hasard?
Nadège, elle est là, bien sûr.
Est-ce qu'elle pourrait venir
sur la vitrine de Noël?
Si elle pourrait venir, ça serait chouette.
Carrément. Nadège?
Ah bah elle arrive.
Elle arrive, voilà.
Bonjour Nadège.
Bonjour, enchanté.
On parlait de toi justement.
Ouais, on est en train de parler de toi, j'avoue.
Bah du coup, vous avez eu l'idée tous les deux en fait de lancer les parties du thé, c'est ça ?
Non, l'idée du thé, c'est Pierre.
Ouais, mais
grâce à toi quand même, tu m'as fait découvrir le thé à la base, mais bon.
Oui. Certes, mais c'est quand même toi qui as décidé d'ouvrir une maison de thé.
Ouais.
Et puis moi, tout naturellement, je me suis bien investie avec toi au début.
Donc la passion, la passion du thé, ça vient de Pierre, la passion au début, mais toi, tu l'as aidé pour projet à se lancer.
Ouais, c'est ça. En fait, elle m'a fait découvrir le thé quand on s'est connus. Elle buvait plein de thé fumé. Elle m'avait emmené dans une grande maison de thé très luxueuse.
Toi, t'en buvais pas à l'époque ?
Non, j'en buvais pas.
Enfin, déjà,
voilà, exactement.
Et c'est toi qui l'as initié.
Voilà, elle m'a mis le nez dedans et après, moi, j'en suis plus jamais sorti.
Mais justement, c'est la question que rituelle dans ces podcasts, c'est pourquoi la bouffe, mais évidemment on adapte et dans ces cas c'est pourquoi l'été. On a compris, c'est Nadège qui t'a mis dans cet univers là, mais ensuite tu nous disais quand on a pris un café l'autre jour que tu travaillais, que tu voyageais beaucoup en Chine en fait.
Ouais, dans mon ancien métier en fait j'étais, bon c'est pas hyper intéressant, mais j'étais acheteur en fait, voilà.
Il y a un lien quand même avec ton activité aujourd'hui.
T'étais déjà
acheteur sourceur de produits, mais dans un autre
domaine. Ouais, dans un autre domaine vraiment complètement différent et qui justement me m'intéressait vraiment pas du tout. C'était pour ça, on était plus dans le textile, dans l'électronique, les choses comme ça. Ouais. Et du coup je faisais de nombreux pendant 5 ans, j'ai fait ça, de 25 à 30 ans, de nombreux voyages en Chine. Ouais. Où j'étais Chine, Taïwan, Thaïlande, Bangladesh, enfin etc. Et du coup j'ai appris vraiment la Chine, négocier, trouver, sourcer, fureter partout dans tous les coins. Ouais. Et du coup, mais là-bas, enfin bon, j'ai fait la rencontre de fournisseurs qui m'ont emmené dans des maisons de thé. Et là, j'ai vraiment eu un déclic, en fait. Où j'ai assisté à une cérémonie du Gong Fusha, ce qui veut dire...
Gong Fusha, c'est où on met de l'eau qui coule dans les tables.
C'est ça, exactement. Je vous montrerai tout à l'heure.
Gong Fusha,
ça veut dire... C'est comme la même racine que Kung Fu, c'est prendre le temps.
D'accord.
Et chat, le thé. Donc, prendre le temps du thé.
Ah, c'est
et
beau.
Le jour où j'ai pris le temps du thé, eh ben, genre, voilà.
Ça fait 15 ans que tu prends le thé.
Ça fait 15 ans que je prends le thé. Que je
prends le temps du thé, ouais.
Exactement, exactement. Et donc, en fait, le cheminement était presque naturel, classique, je dirais. C'est-à-dire, voilà, hein, faire du sens à ce qu'on fait comme métier.
Bien sûr.
Au moment où je me suis posé la question, donc, à la trentaine, je me suis dit, j'avais que deux passions. C'était le thé, le hip-hop. Donc, ouais. Le hip-hop, je suis pas doué du tout. Ouais. Donc, du coup, j'en écoute beaucoup.
Je confirme.
Voilà. Ça, elle confirme, Nadège.
Merci. Non, mais c'est vrai.
Ça, ce sera pour la prochaine crise de la cinquantaine.
Voilà, pour la crise de la cinquantaine, ouais, voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit très crédible. Et du coup, et le thé, et voilà, il y avait plus d'opportunités avec mon expérience chinoise, enfin, asiatique, on va dire, ouais. mes qualifications. Donc, on en a pas mal discuté avec Nadège. Et c'est vrai que par rapport à ça, on s'est tout de suite dit, et surtout, toi, t'as dit qu'il faut, voilà, faudrait le faire différemment.
Oui, oui, parce que moi, en tant que consommatrice de thé, et puis j'allais dans ces maisons de thé parisiennes, je trouvais que c'était un petit peu élitiste. Mm-hmm. Et puis il y avait toutes ces boîtes que moi j'avais envie de découvrir. Et puis bon, on n'ose pas trop, on demande à sentir un ou deux thés, et puis après, bon, on se dit qu'il y a d'autres clients.
Ouais.
Et tout de suite, je me suis dit, ce qui serait super, c'est que les clients puissent avoir accès à tous les thés, mm-hmm. de manière totalement indépendante. Et donc voilà, on a eu l'idée du mur des saveurs.
Ah, les murs des savoirs, c'est les murs qu'on voit derrière.
Oui,
vous,
voilà.
En fait, c'est quoi les concepts?
On a eu l'idée, c'est vraiment toi. C'est sympa.
Le concept, c'est que dans toutes ces boîtes, il y a toutes les références du thé, de thé de la boutique.
D'accord.
Donc, classées par couleur.
Des centaines de références,
voilà.
Quoi. Ouais.
Et qui sont en libre accès. Donc, tous les clients peuvent prendre une boîte, le sentir, regarder les petits descriptifs et puis aussi regarder le thé. Bon, là, en ce moment, ils ne peuvent pas
c'est
trop sentir.
Avec le Covid, ouais.
Mais ils peuvent au moins les voir, là.
Et ça, vous avez eu l'idée quand? Parce que j'ai l'impression de le voir aujourd'hui dans d'autres boutiques, mais c'est ce que nous disait Pierre, c'est que c'est quelque chose que vous avez créé, inventé, qui a été maintenant repris par des concurrents.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait.
Ouais, on avait eu le prix d'innovation au moment de l'ouverture de la boutique.
Ouais.
C'est vrai.
Voilà. Chapeau. Et 2-3 ans plus tard, tout le monde le faisait, en fait.
Ouais. Mmh. Ouais.
Mais c'est génial parce que ça permet vraiment de démocratiser l'été et de donner accès. Là, on voit juste en regardant, on voit déjà toutes les variétés des feuilles, des bourgeons,
c'est
des types d'été.
Et tu parles de démocratisation du thé. Nous, notre principe, c'était vraiment ça, hein, notamment. C'est-à-dire que les gens pouvaient sentir vraiment le thé sans être embêtés par un vendeur. S'ils souhaitaient être conseillés, bien sûr, on était là. Mais
déjà voilà, tout seul, on peut découvrir plein de choses.
Ils peuvent découvrir. Il y a les prix. On n'impose pas d'été forcément. Enfin là, tout le monde peut s'adapter, son budget, son envie, sentir et découvrir des choses que peut-être qu'un vendeur n'aurait pas présenté finalement.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que ça s'appelle le parti du thé. Il y avait cette idée un peu militante quand même, hein, qui était
de rendre le thé plus accessible.
Ouais, vraiment.
Et d'ailleurs, il y a toujours le fait qu'on puisse aussi accéder à des grands crus en achetant des toutes petites quantités.
Ah ouais.
C'est génial. Comme ça nous permet de découvrir.
Exactement.
Parce que tout est vendu en vrac. C'est-à-dire
exactement.
Que je vais choisir la quantité. Je peux prendre 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes.
Exactement. Parce que avant de travailler, en fait, le truc c'est que moi j'allais dans les maisons de thé et j'avais envie de goûter. J'étais déjà pris. Par la passion, mais je pouvais pas acheter moins de 50 grammes. Et quand l'été, on est étudiant et qu'un thé il vaut, je sais
c'est
plus
clair.
Les prix à l'époque, mais on va dire 50 euros les 100 grammes, on hésite. Et si on se trompe, on est un peu dégoûté, quoi. Donc,
ouais, ça me fait penser à des caves à vin qui proposent des grands vins, un petit verre des dégustations, et ça permet de démocratiser.
C'est génial.
Les vins,
et de découvrir, tu sais, le valet.
Voilà,
c'était vraiment le principe.
Ouais,
le principe,
c'est
hein,
clair,
c'était
absolument.
Ça. Ouais, ouais.
C'est très chouette.
Voilà.
Et du coup, tout de suite, vous avez eu l'idée quoi de ouvrir une boutique à Paris, en fait. C'est là, la boutique des Faits d'Herbes date de cette époque-là.
Exactement.
En fait. C'est la boutique historique du parti du thé.
Elle a 15 ans depuis un mois, là, voilà, à peu près.
Super.
Ouais, c'est ça.
On aimerait bien revenir en détail sur ton activité, mais on va peut-être laisser ça pour la fin du podcast, pour la fin de l'épisode.
Ouais.
Maintenant, comme je disais en intro, c'est qu'on voudrait d'abord, c'est mieux comprendre l'univers du thé, son histoire, ses terroirs, ses différentes facettes en fait gustatives. Est-ce qu'on peut parler de la histoire du thé?
Mais avec grand plaisir.
Allons-y. C'est parti.
On y va.
Alors Pierre, maintenant, parlons de thé en général et commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur même l'histoire du thé? Soyons fous, remontons le plus loin possible.
Bien sûr.
Depuis quand on consomme du thé dans le monde?
Alors c'est hyper difficile à dater, mais enfin ça remonte à très 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 longtemps.
Ouais.
Donc il y a plusieurs légendes en fait qui tournent autour de ça, notamment alors du côté de la Chine, on a l'empereur Shennong. Alors c'est genre en moins de 1600 avant Jésus-Christ.
Quand même, ouais, ça fait
un peu longtemps.
Ouais,
voilà. Et ben cet empereur en fait, il aurait eu un ventre transparent. Et il regardait tous les bienfaits des aliments, de tout ça, et conseillait à ses sujets, voilà, déjà de boire de l'eau chaude. Et il voyait dans son ventre transparent que tout se passait bien, que c'était super. Et un jour, il s'est endormi, il faisait la sieste au pied d'un arbre, et il y a des feuilles de cet arbre qui sont tombées dans sa tasse d'eau chaude.
D'accord.
Et en fait, bah, c'était du thé.
C'était
et il a
un
vu,
théier.
Bah, c'était un théier, ouais, voilà.
Ah.
Et en fait, il a regardé son ventre et il a vu qu'il se passait, voilà, plein de bonnes choses, que c'était bon pour la digestion, que plein de choses. Et du coup, voilà, ça, c'est la première légende qu'on connaît, qui est, voilà, très, très ancienne. Et après, il y a une autre légende qui vient plutôt d'Inde, c'est le prince Bodhidharma, voilà, je corrige pas son nom.
C'est pointu, hein.
Ouais, voilà, c'était un moine, qui voulait répandre le bouddhisme en Chine et au Japon. Donc il est parti d'Inde pour faire ça. Et son délire, c'était de pas dormir pendant 9 ans. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a deux légendes dans la légende. Donc la première légende, c'est qu'au bout de 3 ans, il était vraiment hyper fatigué, quoi, forcément. Au bout de 3 ans, ça aide pas. Et du coup, il a trouvé cette plante, le théier, il a mâché les feuilles et ça l'a aidé à tenir les 6 années suivantes.
D'accord.
Ça, c'est la première. Et il y a l'autre version qui est un peu plus hardcore.
Ouais.
C'est que, au bout de 3 ans, il s'est endormi.
D'accord.
Et du coup, le jour où il se réveille, j'imagine qu'il a dormi plusieurs jours au bout de 3 ans, il était tellement énervé après lui qu'il s'est coupé les paupières. Pour ne plus avoir les yeux qui se ferment. Ouais. Et à l'endroit où sont tombées ces paupières, deux magnifiques arbres auraient poussé.
D'accord.
Et ça aurait été les théiers.
Les premiers théiers.
Voilà, exactement.
Ça, c'est sans désespoir.
Ça, c'est la partie légende.
Ouais,
voilà.
Ça, c'est très beau. Voilà. C'est pas mal, rêver nos auditeurs.
Voilà, non, ça.
Maintenant, parlons sérieux.
Ouais. Non, mais l'origine.
Daniel n'y croit pas du tout.
Ah bon, tu n'y crois pas, mais t'es pas.
Et surtout que je me suis baladé sur Wikipédia avant d'enregistrer cet épisode. Donc, je connais quelques versions plus terre à terre, on va dire. Mais
bien
surtout,
non, mais...
parlons déjà de la plante, en fait, du théier. C'est quoi? C'est une plante?
Alors, juste pour finir, quand même, sur l'histoire, en fait, on aurait commencé, donc clairement ça vient de Chine, ça c'est sûr à 100%, après la date on n'est pas sûr,
bien
tu vois,
sûr.
Entre 2000, moins 2400, moins 500, oui. Etc. Et il y aurait eu plusieurs modes de consommation en fait, déjà à la base ça aurait été vraiment de mâcher les feuilles, ça c'est vraiment un truc
avant l'infusion,
qui se faisait,
en fait.
C'est vraiment ce qui se faisait quoi.
D'accord.
On n'infusait pas du tout, on prenait les feuilles et ça donnait de l'énergie, les gens aimaient bien le goût parce que
donc la feuille du théier, par contre c'était déjà cette variété là,
voilà le camélia quoi. Donc
on va en parler après.
Exactement. Et puis après en fait ça, le thé est devenu une boisson un peu plus raffinée aux alentours de 700. Après j'y sais avec Lu Yu qui était un moine mais aussi saltimbanque etc et qui a un peu codifié l'usage du thé ou c'est ce qu'on appelle l'école du thé bouilli, c'est-à-dire qu'on faisait des soupes de thé. Voilà, il faisait bouillir de l'eau mais ça pouvait être aussi avec des épices, avec des aliments, etc.
Pas que du thé, forcément.
Voilà, pas que du thé, mais c'est voilà, et il a écrit un traité qui est hyper connu d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, et
c'est pas encore de l'infusion.
Non, c'est
toujours
pas encore pas. Non, ouais. Toujours pas de l'infusion. Et après l'infusion, elle est venue après juste avant entre ce moment-là et le moment où l'Europe a découvert vraiment le thé. Et à ce moment-là, en Chine, ils ont commencé à broyer du thé pour en faire une poudre verte, ce qui fait penser évidemment au matcha japonais.
Ouais.
Mais en fait, l'idée du matcha japonais vient de Chine. Et ils ont commencé à faire infuser du thé comme ça. Et après, ça a évolué petit à petit. On ne sait pas exactement les détails.
Comment et tout.
Ouais. Voilà, exactement. Mais ça, voilà, au fur et à mesure, il y a eu des essais qui ont été faits, comme beaucoup de choses. Et, et voilà, ça a évolué comme ça.
Donc le premier terroir du thé, c'est la Chine.
Clairement.
Mais il a un épisode important de l'histoire du thé, comme tu as fait référence, c'est la découverte du thé par l'Europe, en fait.
Exactement, exactement.
Et ça, c'est arrivé quoi, les siècles
17e.
17e, quoi.
Mi-17e. Alors, il y a Marco Polo qui en parlait un peu avant, dans ses écrits, mais il parlait surtout des maisons de thé où c'était un joyeux bordel et où, voilà, c'était un peu décadent, on va dire. Donc, il parlait plutôt de ça que du produit. Voilà.
D'accord.
Et du coup, après, c'est, voilà, milieu du 17e, les Européens découvrent le thé et ça devient de la folie quoi, en très très peu de temps, tout le monde devient accro en Europe, l'Angleterre en premier lieu, la Hollande aussi, voilà. Donc c'est comme ça que ça démarre. Et d'ailleurs, ça a posé des gros problèmes politiques. En fait, c'était vraiment géostratégiquement. Ouais,
Parce qu'ils étaient dépendants de la Chine par rapport à cette matière première.
Voilà, ils étaient complètement dépendants de la Chine. Donc le moyen qu'ils ont trouvé pour pallier à cette dépendance, c'est l'opium. C'est pas tout à fait la même chose, mais leur histoire est très très liée en fait. À Calcutta, en fait, ils vendaient beaucoup d'opium à Calcutta aux marchands chinois, qui ramenaient ça en Chine, donc ça leur faisait des sous, quoi, pour acheter du thé derrière. Et du coup, ça faisait que la Chine, une fois bien accro à l'opium, ils étaient dépendants aussi des Anglais. Du coup, voilà. Et ça a causé des guerres. Donc je vous passe les détails.
Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est que même en fait la colonisation britannique en Inde, à ces moments-là, pour être moins dépendante de la Chine, ils ont incité l'Indien à planter.
C'est encore plus tard. Il y a eu des guerres de l'opium, en fait. Et après, il y a Robert Fortune, donc je ne sais plus exactement les dates, au milieu du 19e. Ils ont envoyé un espion, en fait, en Chine, au milieu du 19e siècle. Et là, qui s'est déguisé en chinois, parce qu'en fait,
pour choper le savoir-faire.
Ouais, parce qu'en Chine, dès qu'on sortait des zones autorisées aux étrangers, c'était genre coupage de tête. Enfin, je sais plus comment ils faisaient, mais c'était chaud. Donc, du coup, il y est allé en mode espion et il a volé des graines, il a observé des techniques.
Sujet très sensible. C'était
de l'espionnage industriel, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Et du coup, il a ramené tout ça en Inde. Et ils ont commencé à faire pousser du thé dans le nord de l'Inde.
Et ça vient après. Ouais.
Voilà, et ce qui deviendra Darjeeling, quoi, en fait. D'accord. C'est vraiment c'est là qu'ils ont commencé avec les plaines d'Assam. Aussi.
Et si on parle du coup de la plante, alors avec quelle plante on fait du thé alors? Quelle variété de plante c'est?
Alors le théier, il y a principalement, c'est un camélia en fait.
Un camélia.
Il y a deux sortes principales, le camélia sinensis, c'est le chinois, et la samica qu'on trouve plutôt en Inde.
D'accord.
Qui ont des propriétés différentes, que je vous évoquerai peut-être après. Du coup, c'est la même plante. Et cette plante-là, elle va pousser correctement dans le milieu tropicaux, subtropicaux.
D'accord.
Elle a besoin quoi? Chaleur, humidité?
Ouais, c'est ça, exactement. Elle a besoin de beaucoup d'eau, surtout. Beaucoup d'eau.
D'accord.
C'est à peu près 1500 millilitres par an.
D'accord, ouais.
En France, on est à 750.
Donc en France, on n'a pas les conditions,
sauf à arroser en permanence et tout. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi beaucoup d'ensoleillement, 1400 heures par an.
Ouais. D'accord.
Le vin, il en faut 400, si je ne me trompe pas, à peu près.
Donc c'est des conditions vraiment spécifiques, quoi.
Exactement, et des nuits très fraîches.
D'accord.
C'est une plante naturellement. Elle poussait où à la base? Donc en Chine.
Elle serait originaire de la région du Yunnan, Laos, voilà. Ouais. Toute cette partie-là.
Des régions très humides, quoi.
Exactement. Des conditions vraiment idéales pour le thé, hein, clairement.
Bien sûr. Ouais. Et en fait, quand on consomme, c'est une plante, l'été, mais qu'est-ce qu'on consomme du théier? On consomme les feuilles.
Les feuilles, bien sûr. Les feuilles, les bourgeons,
même les fleurs parfois, non?
Les fleurs parfois, ouais, tout à fait. Alors c'est quand même plus rare. Mais c'est vraiment bourgeons, feuilles, mais aussi les branches. Notamment au Japon, où rien ne se perd.
Les branches, quoi.
Voilà, ils peuvent récupérer ce qu'ils appellent les cookies.
Mais justement, c'est quoi les plus courants, en fait?
Les feuilles. Et dans les plus grands crus, les bourgeons.
Des bourgeons,
En général, plus il y a de bourgeons, plus on est sur des grands crus. C'est vraiment en général. Après, il y a vraiment des spécificités pour chaque région, chaque terroir.
Bien sûr. Et les bourgeons, il y a un moment de l'année spécifique où tu peux les avoir.
Ouais, selon les régions, en fait, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des régions subtropicales où on trouve les plus grands crus, où il y a une période de dormance du théier. Du coup, quand il va se réveiller, généralement au printemps, en fait, les feuilles sont gorgées de sève et les bourgeons repoussent.
Bien sûr.
Et donc les premiers bourgeons, c'est ce qu'il va y avoir
très frais.
C'est hyper frais, hyper tendre, c'est ce qui est le plus recherché.
Oui. Là, il y a plus de richesse aromatique, j'imagine. Ouais, c'est ça.
Exactement. Il y a aussi beaucoup de théine.
Donc les thés à base des bourgeons, ils sont plus forts en théine.
Exactement. Ils sont très très théinés.
La plante, on la cultive comment? Enfin, du coup, c'est dans quel type d'exploitation? Tu peux nous en dire un peu plus sur la culture du
théine? Bien sûr. Il y a déjà le fait que c'est domestiqué quand même maintenant. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est quand même plutôt domestiqué, donc déjà
c'est pas du sauvage, on fait pas de la cueillette de théier.
On en fait mais c'est plus rare quand même. C'est plutôt sur des pouères, des thés spécifiques que je pourrais vous évoquer tout
avec
à l'heure
plaisir.
Mais parce qu'on a des théiers en fait quand on voit l'image d'une plantation, on voit des petits théiers, vous voyez, des petits arbustes, etc., mais en fait ils sont taillés, parce qu'un théier c'est un arbre.
Oui, c'est assez bas. Dans mon image c'est assez bas, mais ça pourrait être beaucoup plus haut.
Ah ouais, si on le laisse pousser, c'est un arbre. On va dans le Yunnan, il y a des gens qui grimpent aux arbres pour aller cueillir les
ah ouais
ouais ouais clairement
D'accord. Ouais,
Mais on peut les faire en mode, comment les Japonais ils font là, ils coupent.
Comme les bonsaïs.
Bonsaïs.
Ouais, mais c'est exactement ça. Quand on va au Japon, c'est comme des bonsaïs. Hein. C'est, on voit des vagues de verre, c'est magnifique. C'est
pour donner une référence, en Europe qu'on connaît bien, c'est à la taille d'une vigne à peu près, c'est ça.
C'est à hauteur de. Un petit peu plus bas.
Un peu plus bas.
Il faut quand même, un petit peu plus bas.
Et pareil, ça prend combien de temps pour arriver à maturité entre.
Alors en fait, il y a plusieurs étapes parce qu'en fait, on fait du bouturage pour multiplier les plants. On les met à la nursery. Donc ça dure entre 2 et 4 ans.
D'accord, ouais.
Et après, on les replante dans le jardin.
D'accord.
Et là, il faut au moins 2 ans avant de pouvoir récolter.
Ah d'accord, c'est long quand même.
Ouais, c'est hyper long.
Si nous, on veut se lancer dans l'été, il faut patienter.
Il faut un petit peu de temps.
Ouais, d'accord.
Il faut un petit peu de temps.
Un peu comme les vignes aussi, tu vois.
C'est 3 ans.
Sauf à acheter des théiers déjà poussés, enfin comme on peut faire sur des plantes classiques. Mais ça coûte beaucoup plus cher et puis on maîtrise moins, c'est moins gorgé du terroir.
Il y a plusieurs variétés de théiers
Ouais, alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 principales variétés.
Ouais.
Mais en fait, on a... Comme dans le vin où on a les cépages.
Ouais, c'est ce que je veux dire.
Ouais, c'est ça. On a les cultivars.
Ouais, on va parler des cultivars. Ouais. Juste avant, j'ai une question sur les plantations, sur l'été. En fait, quelle durée de vie a un théier, en fait? La vigne, ça peut vivre 100 ans ou non?
Ça dépend lesquels, en fait. Donc, je vous parlais de la samika et du chinois, pardon. Ouais. Du thé chinois, du Camellia sinensis, celui-ci a une durée de vie beaucoup plus longue.
D'accord. C'est quoi les plus anciens, on va dire?
Oh, il y a des théiers dans le Yunnan, dans les sauvages, là, dont je vous parlais, qui ont 200 ans. 250
ah, d'accord.
Ans.
Ouais, on peut avoir comme ça, comme l'olive, les oliviers, des choses comme ça, quoi.
Ah, peut-être. Ouais. Peut-être, effectivement. Mais ouais, c'est de cet ordre-là. Les Asamika, donc, qui viennent d'Inde, en fait. Donc, c'est Robert Fortune qui les avait trouvés par rapport à tout à l'heure. Mais ceux-là ont une durée de vie beaucoup plus courte. Par contre, ils ont un rendement beaucoup plus important.
Ah, voilà. D'un point de vue production, c'est peut-être plus intéressant pour les producteurs.
Oui, et ça dépend aussi parce que selon les régions où on se trouve, en fait, on va varier entre Asamika et Chinese. Mm-hmm. Parce que, en fait, pour pas engorger l'usine. Donc, ça pousse pas forcément en même temps, etc. Donc, voilà, ils essayent de bien étudier leur plan de récolte pour que l'usine puisse, la factory puisse bien tenir derrière et produire.
Et il y a combien de cueillettes par an, du coup? Enfin, quelle est la saison du théier?
Alors, ça dépend vraiment des régions, pour le coup. Pour prendre l'exemple de Darjeeling, ou même du Japon, ou de Chine pour les grands crus, c'est vraiment la première cueillette de l'année, qui est la plus recherchée d'ailleurs, c'est celle de printemps.
D'accord,
voilà.
Oui, bien sûr.
Celle de printemps, voilà. À Darjeeling, c'est vraiment typique, on a la cueillette de printemps, après on va avoir la cueillette d'été.
Ouais.
Donc après, la cueillette de printemps, c'est février-mars.
Ouais.
Cueillette d'été, c'est avril-mai. Juin. Mm-hmm. Après, il y a une in-between qu'on n'utilise pas, ou alors que vraiment pour des.
C'est moins qualitatif.
C'est moins qualitatif, donc ça part plutôt dans les moustines. Et après, il y a l'automne, qui est vraiment aussi fabuleux. Et les goûts évoluent vraiment.
Ouais. Ah ouais.
Oui, ça change ça. Voilà, sur la saison. Enfin, un thé de printemps n'est pas la même chose qu'un thé d'automne.
Absolument pas. Des goûts vraiment très différents.
Et... Lors de la dégustation, tu nous feras goûter des thés des saisons différentes.
Bah, ouais, sauf que là, on va goûter le printemps.
Parce qu'on n'a pas la saison, bien sûr.
Et ouais, moi, je suis les saisons. Là, on est encore sur les restes, entre guillemets, de printemps et les thés d'été arrivent là.
Ouais, d'accord.
L'été arrive là.
Non, on est obligé de venir pour goûter.
Par contre, on va goûter un houlong d'automne.
D'accord. Parce que le long, oui, parce que c'est.
Là, j'ai reçu l'échantillon, je ne l'ai même pas encore goûté, on va le goûter encore.
Ah, parce que c'est d'automne de cette année qui vient d'arriver, d'accord.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas de vieillissement.
Et par exemple, sur les houlongs d'automne, la meilleure récolte, c'est en automne. Sur un Tikwaning, par exemple. Au Japon, les meilleurs sont au printemps. Vraiment, les autres sont moins intéressantes.
Ça dépend des terroirs. En fonction des terroirs, tu vas avoir une saison et une complexe. Différence. Une période optimale de récolte.
Exactement, c'est région par région et même, je dirais, plantation par plantation. Parce que
chaque parcelle peut avoir une exposition au soleil différente.
Bien sûr, c'est exactement comme le vin.
Comme le vin, quoi.
Exactement comme le vin.
Bah, la différence du vin, c'est que le vin, tu consommes les jus des raisins.
Oui.
Et ici, tu consommes les feuilles, les bourgeons.
Ouais, c'est vrai.
Et on parlait des cépages, enfin, l'équivalent des cépages que tu appelles les cultivars, je crois, tout à l'heure. Donc, c'est comment ça marche? Il y a plusieurs variétés. Tu nous as dit, il y a 2 types de plantes, mais à l'intérieur de ces variétés,
il y a des centaines de plantes. C'est complètement fou. Ah, ouais,
et qui vont avoir des caractéristiques très différentes, j'imagine.
Ouais, alors que ce soit, ça peut être dégustation, ça peut être aussi résistance au froid. Ça peut être, voilà, il y a plein de critères. Et il y a des instituts qui existent dans les principaux pays producteurs, en Inde, à Rangzhou en Chine, à Kagoshima au Japon, où c'est des bibliothèques de cultivars.
Bien sûr.
Où il y a des centaines de cultivars disponibles.
Et je suppose que même eux, ils se mettent à créer des cultivars, des
clairement,
beaux cultivars.
Clairement, ouais, tout à fait.
En permanence.
En permanence. Donc en fait, le mix entre le terroir, la période de récolte, le type de récolte, si on prend les bourgeons ou les feuilles, le savoir-faire du producteur,
la technique des séchages après, j'en sais rien.
Exactement.
Tu peux avoir une gamme d'été qui est vraiment, vraiment large. Quoi.
Exactement. C'est-à-dire que le même plan qui a poussé pareil exactement au même endroit, on va le replanter au Japon ou au Rwanda, par exemple, où il n'y a pas de dormance. Le goût sera vraiment complètement différent. Quoi. C'est vraiment, ça va être deux produits complètement à part entière.
Ouais. Et donc, cultivar, on peut vraiment faire ces parallèles. C'est l'équivalent du cépage.
Exactement. Et on fait le même travail que... On peut travailler sur du monocultivar, mais souvent aussi, il y a de l'assemblage entre différents cultivars pour obtenir des équilibres, voilà.
Donc toi, tu fais certains mélanges naturels que tu fais ici, c'est un assemblage de
différents cultivars. Quand je fais des assemblages ici, ça va être des assemblages de thé nature différents, mais que j'ai déjà acheté, déjà séché, etc.
Bien sûr. Ouais. Là, ils vont faire un assemblage avant les séchages, en fait, par exemple.
Exactement.
Des cultivars différents.
Exactement.
On voit sur les noms des produits finis le nom du cultivar ou pas du tout, comme dans le vin.
On essaye de le mettre au maximum. Nous, dans les fiches produits, on va communiquer au maximum là-dessus pour.
Et tu peux nous donner des exemples de nom de cultivar
Oui, bien sûr. Connu. Alors, en Inde, il y a le AV2, par exemple.
Vachement connu que les Chardonnays.
C'est vachement connu.
Non, c'est hyper connu dans le monde du thé. Connu.
Comment tu dis AV2
AV2, quoi. Au Japon, le plus connu de tous, c'est l'Yabukita. Il y a 70% de la prod qui est fait sur celui-ci. Non. Mais là, on a reçu, on va le goûter tout à l'heure, un Azatsuyu, qui est un cultivar assez rare, qu'on appelle le Gyokuro naturel, qui est un truc génial. Mais il y a plein de choses. En Chine, c'est pareil, il y en a plein, des typiques.
J'adore quand tu dis les noms des cultivars. Ouais, des variétés,
j'en ai plein, si tu veux.
Je suis incapable de le répéter.
On va parler d'un autre élément qui est très important qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont les terroirs. Et c'est comme le vin, c'est pareil. Ouais. On a parlé de la Chine, des Landes, du Japon. Est-ce que tu peux nous parler en grande ligne des terroirs les plus importants?
Bien sûr.
Pour qu'on ait une idée un peu plus comment ça fonctionne.
Ouais, clairement. Alors, bien sûr, la Chine. On va commencer.
C'est quoi? C'est les producteurs numéro un au monde.
Ouais, c'est ça. Après, derrière, il y a le Kenya. Le Japon, mais le premier c'est la Chine, avec beaucoup, c'est très étendu la Chine, donc on a vraiment
des thés différents.
Donc on a beaucoup de thés verts évidemment, ils sont vraiment très très reconnus pour leurs thés verts, notamment le Longjing, qui est un des plus connus, on a le Taiping Rokui, on a le Piloshun, on a vraiment des thés verts comme ça qui sont vraiment fabuleux, avec des caractéristiques.
Les mots que tu viens d'utiliser, c'est quoi? C'est pas le cultivar là, c'est quoi? C'est la région.
Non, ça c'est le nom du thé.
Le nom du thé,
ouais, comme on dirait un Saint-Estèphe. C'est la région.
Donc c'est quoi? C'est la région? C'est quoi? Non,
c'est le nom du thé. Piloshun, c'est, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est spirale de jade.
D'accord.
Ça, c'est par rapport à l'aspect en fait.
Mais je peux pas avoir ces thés ailleurs. Donc finalement, c'est très proche de l'AOC.
C'est quand même
en fait,
lié à la géographie, j'ai l'impression.
Non, normalement, on peut pas. Voilà. Par exemple, au Népal, ils font des sencha. Alors que le sencha, c'est japonais.
C'est japonais, donc c'est pas une AOC.
Ouais, mais par contre, le goût sera pas le même parce que le terroir n'est pas là.
Cela étant dit, au Brésil, on fait du champagne et du cognac. C'est pas du tout la même chose.
Alors, il y a une AOC quand même.
Ça fait plaisir à l'INEO, ça.
Il y a une AOC quand même, c'est Darjeeling. Ils ont quand même fait une AOC pour Darjeeling. Ils ont réussi à le faire, mais c'est vraiment très rare en fait.
D'accord.
Finalement. Ouais. Après, donc la Chine, ils font aussi beaucoup de thé noir. Que eux, ils appellent thé rouge. Nous, on appelle ça thé noir parce qu'on regarde les feuilles. Eux, ils appellent ça thé rouge parce qu'ils regardent la liqueur.
Ah, voilà. Qui est rouge.
On en parlera tout à l'heure des différentes variétés, des différentes couleurs.
Voilà. Ils font, par exemple, le Kimun, le Yunnan, pour les plus connus. Mm-hmm. Et après, on a les pu'er aussi en Chine. On a vraiment beaucoup de choses. Après, il y a le Japon. Où là, c'est vraiment 90% de thé
vert. Quoi.
95% de thé vert. Le plus connu, c'est le sencha, mais en gros, ça veut dire thé vert. Après, sencha, c'est comme si on dit vin rouge. Il y a à boire et à manger, on va dire.
D'accord.
Ouais, vraiment, il y a des très très belles choses, mais il y a des choses pas terribles non plus. Hein.
Bien sûr.
Faut pas se leurrer.
J'aime beaucoup le parallèle vin rouge.
Ouais, mais c'est vraiment.
C'est très large.
Voilà, exactement.
Même la consommation du thé au Japon, elle est très axée thé vert.
Ils boivent beaucoup de thé vert. Ils boivent beaucoup de thé vert. Alors là, le problème au Japon, c'est que la mode, puisque c'est plus exotique, c'est le café en ce moment. Mais bon,
c'est un autre sujet.
Ils en ont marre.
C'est ça.
Et il y a un truc que tu nous as expliqué l'autre jour, c'est tu disais qu'on a du thé aussi. Moi, j'étais surpris. Il y a du thé au Brésil, en Argentine. En Argentine, il y a les matés. Mais tu parlais du thé au Brésil et même en Afrique, Rwanda, Kenya, ce sont des pays producteurs d'été qui produisent beaucoup d'été de qualité.
Énormément. Ouais. Alors, de qualité à voir. De plus en plus. Mais le Kenya, c'est un des plus gros producteurs mondiaux.
En quantité.
D'accord. Voilà,
c'est plutôt pourquoi? Pour des thés industriels.
Voilà. On va pas citer peut-être, mais les thés en sachet du supermarché. Donc c'est plutôt ça. Mais cela dit, il y a des thés comme dans le café, des thés de spécialité vraiment qui se créent, notamment au Rwanda, où ils ont fait venir des cultivateurs du Sri Lanka, avec leurs plans, leurs théiers, etc., et leurs techniques. Mmh. Et du coup, ils ont fait ce qu'on appelle les thés orthodoxes. Les thés orthodoxes, c'est les bons thés en grande feuille. Ouais. Parce que sinon, on est sur du CTC, c'est de la poudre qu'on met dans les petits sachets. Du coup, ils ont développé cette culture-là et ils arrivent à avoir des thés extraordinaires.
Ah ouais,
vraiment extraordinaires. Ouais. Hein, avec des goûts entre le Ceylan, avec des goûts de Ceylan, donc on est plutôt sur le fruit, et la force des thés africains, quoi.
Super.
Et même un petit côté légumineux, je sais pas d'où il sort, mais c'est vraiment hyper bien équilibré. Ils arrivent à faire des thés vraiment fabuleux.
Magnifique.
Ouais.
Magnifique.
Et ils ont fait venir des Chinois pour faire du thé blanc, du thé vert, etc.
Bah, donc, super. Ouais, ouais. Et nous, ce qu'on aimerait comprendre aussi, c'est par rapport à la production. Est-ce que tu peux nous raconter les trajets de la terre, on va dire, du producteur à la tasse?
Ouais.
Quelles sont les différentes étapes des productions jusqu'à que ces thés arrivent chez toi, qu'on puisse les consommer derrière?
Bien sûr. Alors, les étapes sont différentes selon la couleur du thé, mais je vais faire un résumé.
Okay.
En gros,
on aura le temps de revenir sur les couleurs lors de la dégustation.
Carrément.
On peut pas besoin de rentrer dans les détails.
D'accord. Donc en fait, il va y avoir la récolte évidemment. Alors bien selon sûr. Le lieu, le moment sera différent.
Ouais. Donc on va récolter les feuilles, voilà, les bourgeons ou même la tige, enfin certaines parties des branches, tu disais tout à l'heure.
Exactement. Ouais. Et là, on va courir ou rouler ou aller très très vite dans l'endroit qu'on appelle la factory,
ouais,
pour pas que les feuilles évoluent et qu'on puisse.
Pour pas que ça s'oxyde.
Voilà.
Ça,
c'est ouais, une histoire d'oxydation, ouais, dont on reviendra dessus tout à
d'accord
l'heure. Donc, et là, une fois arrivé dans la factory, alors quand je dis la factory, ça peut être une grange, hein, derrière le jardin des producteurs,
ça peut être artisanal,
ouais, artisanal, ou ça peut être immense. Hein,
ça dépend de qui tu vas faire.
Exactement. Et là, on va travailler le produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va soit rouler les feuilles, soit déjà en général, on les flétrit, c'est-à-dire qu'on va les aérer, on va les mettre à l'air pour que ça sèche.
D'accord.
Voilà, gros, naturellement, quoi.
Naturellement, et que ça assouplisse la feuille.
Mmh.
Et qu'après, on puisse travailler la feuille, la rouler, si on a envie de la rouler, ou la mettre en aiguille. Il y a plein de
choses. La rouler, c'est-à-dire quoi exactement?
C'est-à-dire que les feuilles, vous avez certainement déjà vu différentes feuilles de thé. Il y en a qui sont en espèce de petit bâtonnet,
ouais,
en petite aiguille. Il y en a qui sont en petite spirale.
Ouais.
Il y en a qui sont plates.
D'accord.
Dans la longueur, il y en a qui sont carrément immenses et plates.
Ça se fait avant le séchage, en fait.
Oui, ouais, voilà, c'est toujours avant le séchage. Ouais, ouais, exactement.
Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles prennent ces formes, alors?
Alors, ça dépend. L'ordre dépend de la couleur du thé, en fait.
D'accord.
Alors, donc, je vais un peu vite dans ma réponse, je vous expliquerai.
Ouais.
Mais
rouler, qu'est-ce que c'est, alors,
ouais,
cette
voilà
opération-là?
Bah, rouler, c'est...
C'est-à-dire quoi?
En fait, on va casser la structure de la feuille, soit en roulant, soit en mettant à plat, comme je vous disais,
ouais,
et ça va casser la structure de la feuille et libérer des aromates différents.
D'accord.
Voilà.
Et après, c'est avant le séchage.
Enfin, oui, ouais, et consommation, c'est joli d'avoir des petites feuilles
ouais
à rouler. Voilà,
ouais, mais c'est joli.
Mais l'intérêt, il est vraiment gustatif.
Ouais, ouais, ça va changer la structure moléculaire de la feuille et donner des goûts différents.
D'accord.
Tu nous apprends plein de choses.
C'est le démarrage du séchage. Parce que là elle commence à sécher.
Flétrissage.
Ouais.
Donc, on aère les feuilles. Après, en général, on les roule. Et après, on peut les oxyder ou pas,
ouais,
et après on les sèche.
Oxyder, c'est naturellement ou...
C'est naturellement, c'est chaleur, humidité en gros.
D'accord. Mmh.
Mais sauf qu'un thé vert, mais je vous expliquerai, mais,
oui,
mais un thé vert, on va tout de suite stopper, tuer le vert,
ouais,
c'est-à-dire on va arrêter l'oxydation.
On veut que ça reste vert.
Exactement, et on fera le roulage après, enfin voilà.
Et pour les thés bleus, noirs, on fera plus.
Semi-oxydation, les thés noirs,
on va y revenir, c'est très important,
ouais, ouais,
bien sûr. Et une fois, si ça arrive à un point où ça se stabilise, ça va plus évoluer, en fait.
Exactement.
Sec,
et après le séchage. Donc, c'est le séchage, ça peut être au soleil, ça peut être dans un four. En général, c'est des fours avec des tapis roulants et,
d'accord,
et avec
c'est
une
plus industriel.
Exactement. Comment. Même pas forcément industriel, hein, c'est des petites machines,
ah, des
hein.
Petites
c'est pas,
de, ouais, ouais,
c'est
ouais
pas forcément des grosses structures qui font ça, mais c'est vrai que le four, c'est, au moins, ça fixe tout de suite. Alors, c'est le four ou, ça peut être des woks aussi, des espèces de grands woks, des bassines chauffées,
ouais,
pour des thés verts où on va retourner les feuilles à la main.
À la main.
Pour les très
ah
grands
ouais
crus.
D'accord.
Voilà, ouais.
D'accord. C'est une attention spéciale, quoi.
Boulot, là,
et il y a des thés fermentés aussi, non?
Ouais, c'est ce qu'on appelle les pouers.
Ah ouais, voilà, c'est ce que j'arrive
voilà
pas à dire, ouais.
Exactement. Les pouers.
Pour un Brésilien. Vas-y,
voilà,
tu vas dire tout à l'heure.
Mais moi, je le dis encore à la française parce qu'en chinois, c'est pas ça non plus. Hein.
comment on dit en chinois?
Alors, ok, défi là. Alors, je dirais plutôt pour.
Pour.
Ah,
oh là là.
Pour. Mais l'accent doit pas être bon, ça doit vouloir dire
on
autre chose.
À nos potes chinois.
Ok.
On s'excuse auprès d'eux d'ailleurs.
Et eux, alors
si
le pouer, le pouer, alors c'est pas roulé, c'est un thé qui est fermenté complètement et qu'on va laisser vieillir en général. qu'on va mettre dans des moules, on va les humidifier, les mettre dans les moules sous forme de galettes ou de nids ou de plein de formes différentes. Mmh. Et on va les laisser vieillir comme du bon vin.
D'accord.
Et plus il y a des galettes aujourd'hui.
Combien de temps à peu près?
Ah, bah, ça peut.
Voilà. Comme du vin, vraiment. Vraiment.
Ouais, ça peut être long. Par contre, ça va pas, il y a pas, les vins, souvent, des fois, à un moment donné, ça sert à rien et même ça descend.
Oui.
Alors,
non.
Là, non. Si, elles sont bien conservées, bien évidemment. Oui. Hein,
dans des est-ce que tu en as ici dans ta cave des trucs anciens que tu as gardés pour voir un peu comment ça évolue?
J'en ai, mais c'est vrai que c'est des choses, moi, j'ai pas les conditions pour les conserver correctement.
Bah oui.
Donc, elles vont plus évoluer. Et, ou mal évoluées en tout cas, mais elles sont voilà, c'est des, on prend des petites quantités qu'on va vendre au fur et à mesure.
Il y a peut-être un partenariat à mettre en place avec la Tour d'Argent pour vieillir.
Voilà, exactement. Choses, je crois que
on va en parler.
J'ai cru comprendre qu'ils avaient une belle cave.
Si tu cherches, des caves dans des conditions idéales et parfaites, optimales, ils ont tout ce qu'il faut. On peut parler des producteurs. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, il y a différents types de producteurs. Il y a des toutes petites structures, des grosses structures. Majoritairement, qu'est-ce qu'on observe, c'est il y a plus de grosses structures.
En termes de volume produit, évidemment, ce sont plutôt les grosses structures qui font les plus gros volumes. Il y a tous les, alors les plus gros volumes se font pour l'industrie vraiment, Unilever et compagnie.
Mais il y a encore de l'artisanat qui fait de la qualité.
Bien sûr, heureusement. Ouais. Sinon, je ferais pas ce métier, je crois.
Ouais, mais
Non, il y a beaucoup d'artisanat et dans tous les pays, dans des endroits insoupçonnés. Vraiment, au Japon qui est très industrialisé, vraiment pourtant, même en utilisant les techniques modernes, ils arrivent à faire des choses extraordinaires du travail d'orfèvre. Ouais. En Chine, on va trouver des grands crus où les feuilles sont roulées à la main, alors que souvent c'est en machine, même si ça peut être très bien fait en machine, mais quand c'est fait à la main, en général, c'est quand même vraiment mieux. Mmh. T'as les cueillettes mécaniques ou les cueillettes manuelles aussi.
Ouais.
Et la cueillette mécanique, malgré tout, ça peut abîmer les feuilles
c'est
quand même.
C'est plus grossier,
de rien.
Plus sûr, ouais.
Voilà. Il y a beaucoup de critères comme ça. Donc, mais dans tous les pays, en fait, vraiment, même en Chine, il y a des choses.
Trouve des petits producteurs.
Ouais, exactement.
C'est un savoir-faire artisanal.
C'est ça. La difficulté, c'est pour l'export, parce que les petits producteurs, la Chine, c'est compliqué, très administratif. Ils n'ont pas la structure, il leur faut des licences pour exporter. Alors, ils ne parlent même pas anglais, donc c'est compliqué.
Ouais.
Voilà. Au Japon, c'est pareil. D'ailleurs, il y a des petits producteurs qui sont dans leur campagne, ils ne parlent pas un mot d'anglais.
Bien sûr.
Voilà, donc il faut vraiment y aller avec des traducteurs et discuter, essayer de faire les démarches administratives pour eux au départ.
Il faut les chercher, quoi. Il faut.
Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Parce que ils ne vont pas exporter. Leur marché leur suffit presque.
Et ces types de producteurs, des petits producteurs en Chine ou au Japon, ils arrivent à bien vivre de cette activité-là ou c'est des gens qui souffrent, qui galèrent, comme certains agriculteurs?
Il y a les deux, hein. Il y a les deux. Parce qu'il y en a qui sont reconnus.
Et eux, ils vivent bien.
Ils s'en sortent bien. Et puis il y en a d'autres, veille que veille, ils y vont, ils y croient.
Ils sont passionnés,
exactement. Ouais. Et ils vivent bien, en fait, hein. Parce que après, c'est peut-être pas, il n'y a pas que le compte en banque, je pense, qui va compter.
Bien sûr.
Alors le compte en banque, je sais pas comment il est, je pense pas qu'il soit dingue, mais par contre ils ont une vie de rêve, enfin quand on va les voir c'est juste
ils sont
dans des cadres magnifiques, ils ont un rythme de vie avec la nature, quoi. Leur rythme c'est le théier, etc. Et ils arrivent, ils mangent très bien, hyper bien, ils vivent de leur passion, même s'ils en vivent peut-être chichement, et puis ils sortent des produits complètement dingues et ils en sont tellement fiers.
Et les théiers, c'est une plante qui demande autant d'entretien que les vignes, par exemple.
Clairement.
Ils s'occupent quotidiennement de leur plante.
Quotidiennement. Alors, en général, il y a pas mal de parcelles différentes dans un jardin.
Ouais.
Heureusement, c'est pas tout en même temps.
Bien sûr.
Mais il y a beaucoup de tailles, notamment.
C'est la taille.
Ouais, beaucoup de taille.
Taille cueillette, quoi.
Ouais, parce que souvent, alors, selon les régions, on va faire une première. Alors déjà, faut les tailler avant la dormance, quand il y a une dormance du théier. Il faut les tailler vraiment bas, enfin vraiment en court. Et derrière, on va faire la première cueillette. On va retailler tout de suite quelques centimètres. Et entre chaque cueillette, on va retailler. Et il y en a certains qui auront mal poussé, donc on va les retailler encore plus court. Enfin, ils s'adaptent.
Quoi.
C'est vraiment.
Donc ça nécessite beaucoup de main d'œuvre, alors comme culture.
Ouais. D'ailleurs, souvent dans les plantations, même moyennes, au printemps, il y a énormément de saisonniers qui viennent.
Ouais.
Qui viennent pour la cueillette.
Pour les aider avec les différentes étapes.
Ouais, exactement. Ouais.
Il y a beaucoup de parasites. Est-ce que c'est une culture qui nécessite beaucoup de traitements, voire même de traitements chimiques, et même si évidemment j'imagine que chacun y met sa solution.
Exactement, mais c'est ça, c'est exactement le truc, parce qu'après c'est un cercle vicieux aussi, parce qu'évidemment il y a des parasites, forcément.
Ouais, bien sûr.
Mais après, comment on va les traiter, ça c'est.
Chacun a son style.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a ceux qui vont, je sais qu'à certains endroits en Chine, il y a des plantations énormes, ça va y aller, ça va être de l'épandage en hélicoptère, quoi. Ça va être justement monstrueux, quoi.
Ah ouais.
Des trucs, bon, je vous déconseille.
Comme on connaît avec... d'autres types de cultures.
Exactement.
Et avec du Roundup.
Ouais, voilà, notamment.
Comment on dit Roundup en chinois, tu sais?
Glyphosate. Ça, c'est la marque commerciale, mais
Glyphosate. Pareil, je pense qu'on dit pareil. on doit dire pareil. Puis il y en a d'autres qui vont faire des ils vont stopper les maladies ou les insectes ou etc. de manière naturelle.
Bien sûr.
J'ai vu, alors en Assam par exemple, il y a beaucoup d'arbres dans les plantations pour notamment des histoires de drainage. Mm-hmm. Mais aussi ils ont mis plein d'autocollants, enfin de double face en gros, sur les arbres.
Ouais.
Et piègent les parasites. Ouais. Enfin voyez, il y a plein de choses comme ça. Bon, au Japon, il y en a qui ont vu qu'un jour il y avait eu un typhon. Mmh. Ils sont réveillés le matin, il n'y avait plus aucune araignée, plus aucun. Enfin, il y avait encore les araignées, mais il n'y avait pas les parasites qui mangeaient les plantes.
Ouais.
Donc le mec s'est dit, attends, un typhon, ça marche? Ok, je vais créer une machine qui recrée les conditions d'un typhon.
Ah non,
mais je te jure.
Comment tu recrées les conditions d'un typhon?
Bah, en fait, c'est un espèce de tracteur, on va dire, mais qui va au-dessus des théiers.
Ouais.
Et qui va balancer à haute pression de la vapeur d'eau.
Ouais, d'accord.
Et en fait, ils vont nettoyer les théiers sur pied à la vapeur d'eau. Donc, ils ont recréé les conditions d'un typhon. Et en plus, il y a un espèce de mouvement du tuyau qui libère la vapeur, qui fait que ça tourne tout autour des plantes, etc. Et que ça donne un vrai mouvement. Et du coup, ça enlève les mauvais parasites. Et les vrais, alors, je sais pas comme pourquoi, je me demandais pas pourquoi.
Ouais, ouais.
Mais les araignées arrivent à se protéger. Et les araignées, c'est bien parce qu'elles bouffent pas les plantes, mais elles tuent les autres parasites.
Insectes,
voilà.
Sûr,
elles bouffent comme on a les coccinelles qui sont bien pour les plantes. Voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et il y a ce genre de choses.
Il fait un triage comme ça.
Voilà.
Ouais.
Et puis, pour la fertilisation, on va dire, ou pour les engrais, il y a aussi les engrais, il y a toujours les mêmes, hein. Ceux qui mettent du chimique, et puis ceux qui vont mettre des carcasses de poissons, du compost, voilà.
Ouais.
Donc il y a toutes les
solutions, les moins naturelles aux plus naturelles.
Exactement, exactement. Et les bio sont pas forcément à chaque fois tout le temps. On a tout le temps le droit à du pesticide et puis il y en a qui sont pas labellisés mais qu'on met jamais du tout.
Ouais.
Pas un gramme. Enfin voilà, c'est vraiment.
Et nous, moi en tant que consommateur, en fait, je m'étais jamais posé la question par rapport au thé bio, mais c'est vrai que c'est une plante, donc il fallait vraiment faire attention. En plus, à l'infuser, il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans notre thé.
Exactement.
Ouais. La notion du bio dans les thés, c'est quelque chose qui a suivi la tendance du bio au sens large.
Oui.
Et c'est une demande de plus en plus importante des consommateurs.
En fait, le bio dans le thé, ça a démarré au départ avec des gens qui avaient des thés plutôt de mauvaise qualité et qui n'avaient pas de débouchés. Et ils se sont dit, tiens, on va faire du bio. Ils ont commencé à en vendre parce qu'ils étaient labellisés bio. Donc ça, c'était le premier truc.
Donc on partait sur une mauvaise qualité.
Ouais.
Donc
du coup, c'était vraiment un prétexte pour vendre, etc. Bon, et après, bon bah c'est quand même je vous parle de ça il y a 25 ans. Hein, donc et maintenant, évidemment, il y a plein de gens qui font des thés de qualité et qui en plus sont bio. Maintenant, on peut avoir des thés. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon ou bon.
Comme souvent. Ça suffit pas. Label bio suffit pas.
Voilà, ça suffit pas. Mais cela dit, quand on est consommateur non averti, qu'on va acheter son thé au supermarché, franchement, il vaut mieux prendre du bio. Parce que sinon, si c'est pas du bio au supermarché et que c'est vraiment pas cher, méfiance.
Méfiance. Ça a été traité par hélicoptère, comme tu le disais tout à l'heure.
Non, mais voilà, faut vraiment se méfier. Par contre, après, quand on est dans des magasins de spécialité, etc., en général, bon, on discute avec les gens et puis on voit.
Tu nous mets l'eau à la bouche, là. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la dégustation et goûter tous ces thés que tu vas nous proposer maintenant?
Avec grand plaisir.
Allez,
je vous ai préparé une petite session sympa.
Bah, tout à l'heure. Maintenant, on va démarrer avec la partie qui me plaît le plus, c'est la dégustation. Nous sommes dans la salle des dégustations du Parti du Thé. Pierre, qu'est-ce qu'on va... Ah, justement, avant de démarrer, il y a Nadège qui nous a rejoint pour la dégustation. Merci Nadège.
Mais je t'en prie,
et il y a Valentin qui est là pour préparer toutes ces différents thés qui sont sur la table.
Ah, c'est impressionnant. Voilà. Ouais.
Pierre, tu peux nous expliquer ce qu'on va déguster là?
En fait, là, ce que je vais vous faire découvrir, ce sont toutes les couleurs du thé.
Ouais.
Donc, on va déguster que des grands crus. Parce qu'on le vaut bien.
Merci, c'est un honneur.
Voilà.
Un honneur.
Et en fait, on va partir dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre d'oxydation. Je vais vous en parler. On va faire du thé blanc, du thé vert chinois, du thé vert japonais. Un houlong d'automne exceptionnel. J'ai reçu l'échantillon ce matin. Voilà.
Wow.
Voilà, donc c'est un truc de fou. Trois sortes de houlong, donc plus ou moins oxydés. Et on va faire deux thés noirs, deux grands classiques, il y en a plein d'autres, mais ça va vous faire quand même que des bourgeons, vous allez voir, c'est génial. Et à la fin,
un pu-heur.
Voilà, c'est ça, un pu-heur.
Un chinois, pu-heur.
Voilà, c'est ça, un pu-heur. Donc on va se régaler, je pense.
On y va.
Donc on y va. Donc
on commence par un thé vert, c'est ça?
Non, par un thé blanc.
Quoi les thés blancs déjà?
Alors voilà, le thé blanc, c'est un thé en fait qui est récolté au moment de la fête de la lune, donc c'est au mois de juin, à peu près, je sais plus la date exacte, début juin, en Chine. C'est une spécialité du Fujian.
On retrouve qu'en Chine, ça.
Non, on en fait ailleurs. La technique est utilisée ailleurs, mais c'est originaire de là. Et on va goûter l'origine. D'accord. Et donc là, comme vous pouvez voir dans les feuilles sèches que je vous ai amenées, là, pas de feuilles, en fait. Il n'y a que des bourgeons.
C'est que des bourgeons, d'accord.
Il n'y a que des bourgeons dorés. En fait, le principe, c'est de juste flétrir la feuille, c'est-à-dire juste la faire sécher, traditionnellement, sous un soleil voilé, avec un petit peu d'air.
Donc ça paraît pas roulé là.
Non, c'est que des bourgeons, ils sont comme ça, ils sont pas roulés, ils sont voilà, ce sont les bourgeons tels qu'ils sont sur le théier, cueillis, c'est au moment où ils sont et en fait, le fait de faire cette opération de flétrissage, ça fait dresser le petit duvet blanc qu'il y a sur le sur le bourgeon et c'est pour ça qu'on appelle ça des thés blancs.
D'accord.
D'accord. Là, on est en général, on est sur des thés très suaves, soyeux avec des notes florales. Floral et voire, enfin ça dépend des récoltes, voire un peu fruité, mais vraiment sur des fruits blancs très 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 doux. Et ce sont des thés très légers. Ce sont des thés très 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 légers, donc je vous invite à les goûter.
On déguste.
Ouais.
Je trouve qu'ils ont une odeur boisée.
Ah, mais après c'est chacun à son ressenti.
C'est légitime.
C'est un petit, ça peut être, il y en a qui vont me dire légumineux, des choses comme ça. Quand on fait vraiment le travail, donc là je vais vous faire le bruit,
Vas-y.
Goût de pané là. Ah, celle-là, c'est la dégustation. Ouais, c'est comme du vin là, tu fais pareil. Tu vas aérer en fait.
Exactement, la rétro-olfaction va être hyper importante dans la dégustation.
D'accord.
Et c'est là qu'on va faire sortir les saveurs. Et donc là, on est sur un Yinzen, les aiguilles d'argent. Typiquement, là, pour moi, on est vraiment sur des notes un peu fruitées, fruits blancs, mais très très légers, type pêche blanche, mais vraiment, voilà, exactement. Ouais. Avec un petit côté, il y a toujours le côté végétal, de toute façon.
Un petit goût de pané là, je sais pas.
Donc. Ouais. Donc voilà.
Très bon, très
et donc là, on l'a fait aux ongles la manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on remplit la moitié d'un zong, c'est une petite tasse, qu'on remplit et on l'infuse sur une infusion très courte et ça ressort.
C'est quelle température l'infusion du thé blanc? C'est pas très chaud?
Non, c'est 70 degrés.
Ah ouais.
On va partir sur 70 degrés.
On voit que.
Ouais. Voilà, exactement. On va essayer de pas abîmer les bourgeons et en fait, par principe, normalement, on l'infuse 3 fois, 4 fois, 5 fois jusqu'à ce qu'il soit, on en dise. Tirer toute la substance.
Là, c'est la première infusion.
Ouais, là, c'est la première infusion. On pourrait le refaire, mais bon, comme on en a plein goûté.
D'accord.
Genre à la maison, je pourrais réinfuser.
Il faudrait
sinon c'est du gaspillage, quoi.
Ah, ce serait dommage parce que surtout quand ça se révèle et les parfums vont changer. Les odeurs, tout va changer, il va évoluer le thé.
Donc c'est intéressant. Même la deuxième et la troisième infusion, elle a.
Petite question, c'est spécifique pour ces thés blancs ou c'est un peu partout?
Non, alors. Plus ou moins de fois selon le type de thé.
Ouais.
Mais il y a que les thés noirs ou thés rouges en Chine que je refais pas en général infusés. Mais sinon les pouers, les thés verts, les houlongs, c'est ce qu'on va et pouers, c'est ce qu'on va faire infuser le plus de fois.
Ah ouais.
Tu me parlais juste de la température de l'eau. Il y a pas que la température de l'eau. Vous savez que le thé c'est quand même 99,99% d'eau. Ouais. Donc la qualité de l'eau va être hyper importante. Là, on est sur de la Volvique pour pas la nommer, mais en fait ça change tout quoi. Si on prend l'eau du robinet, les feuilles vont s'ouvrir. 4 fois moins vite qu'avec de la Volvic où le pH est très très bas.
Ah,
voilà. Donc ça c'est la qualité de l'eau est importante. Au moins avoir de l'eau filtrée, des choses comme ça, ça c'est hyper important.
D'accord.
Après du coup on va passer au thé vert. Donc un thé vert, du coup le principe c'est on cueille des thés et on va tuer le vert tout de suite.
D'accord.
Tuer le vert, ça veut dire on va cuire la feuille pour casser
arrêter l'oxydation.
Il n'y a pas
exactement
d'oxydation.
On tue les enzymes responsables de l'oxydation et après on va travailler la feuille.
Petite question par rapport à la théine dans tout ça. Est-ce que une feuille non oxydée elle aura plus de théine qu'une feuille oxydée ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. C'est la cueillette qui va être importante.
D'accord.
Plus il y a de bourgeons, plus il y a de théine.
D'accord.
Et en fait, plus on descend dans l'arbre. Plus on a des grosses feuilles du bas de l'arbre, moins il y a de théine.
D'accord.
Souvent le cas dans les houlongs d'ailleurs.
Donc c'est au niveau de la matière première.
Exactement. Après il y a des cultivars, il y a des choses qui sont quand même plus ou moins
riches en théine avec des plantes.
Voilà. Exactement. Donc là on passe sur un des plus célèbres des thés chinois, voire le plus célèbre, c'est le Longjing.
Ah. Longjing. On a évoqué les Longjing.
Ouais. Le Longjing, puits du dragon.
Ouais.
Donc il vient du Zhejiang. C'est vers Hangzhou. Il y a l'institut du thé où il y a tous les cultivars, etc.
Ouais.
Donc là on est sur des feuilles plates, vous voyez. Hein, bien vert, bien flat. Là, on est sur le Shifeng, en fait, exactement. C'est le pic du lion. C'est le plus grand cru qu'on puisse trouver en Longjing. Il n'y a pas mieux. Ouais, ouais. Il n'y a pas mieux.
C'est pas du tout la même chose.
Ça n'a rien à voir.
Ah ouais.
Ça, c'est le son des feuilles. Là, il n'y a pas de bourgeons. Là, c'est que des feuilles.
Ouais, enfin, si, il y a des bourgeons, en fait. Mais il y a des bourgeons, mais tout est aplati, en fait.
D'accord.
Et là, on n'est pas dans cette espèce de wok. On les sèche dans le wok à la main pour les plus grands crus. Après, ça peut être mécanique pour les moins.
C'est pour ça que c'est difficile parfois d'identifier les bourgeons, en fait. Parce qu'ils sont aplatis avec les feuilles.
Exactement. Il n'y a que sur les thés blancs où on ne peut pas se louper. Il n'y a que ça. Mais en général, c'est souvent un bourgeon, deux feuilles. Là, je goûte aussi.
Hein, ouais. Et là, la température, c'est pas la même. Là, c'est exprès que ce soit plus chaud.
Le thé blanc a infusé plus longtemps.
Ouais.
Donc, du coup, la température
est descendue. D'accord.
Voilà. Mais là, on est sur. Oh, j'adore ce thé.
Ouais,
pardon. Mais enfin, j'adore tous les thés qu'on va boire en même temps. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais là, pour moi, il y a des notes un peu noistées. On est sur le floral, quoi. Sur les fleurs blanches, ce genre de choses. Et du végétal, hein, bien sûr.
Mm-hmm.
Mais on a le noisté un peu. Ce côté, c'est pas torréfié. Mais vous voyez, dans la bassine, on le sent, hein, cette chose-là.
Et un thé vert comme ça, à quel moment de la journée tu conseilles sa dégustation?
Moi, c'est vraiment matinée, début d'après-midi, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment des trucs en plus que j'ai vraiment qui sont assez théinés, donc qui sont assez vives.
Ça, c'est pas un thé du soir, d'accord.
Ouais, c'est pas un thé de l'heure à laquelle on le boit maintenant.
Ouais, d'accord. T'es en train de me dire que je vais rien dormir cette nuit.
Ouais, surtout avec tout ce qu'on voit, c'est d'accord. Clair, c'est sûr même.
je t'appellerai.
Et les prochains thés, ça sera toujours un thé vert.
Alors,
en fait, le
du
troisième
coup, ouais, tout à fait, c'est un thé vert, mais qui vient du Japon. Donc la méthode pour casser le verre, tuer le verre et stopper l'oxydation n'est pas la même. En Chine, on est donc à sec, alors qu'on va être à l'étuvée au Japon.
Ah, vapeur, c'est ça.
Voilà, vapeur. Et du coup, ça va conserver des notes complètement différentes, beaucoup plus végétales. On est beaucoup plus sur l'herbe coupée, fraîche. On a vraiment beaucoup plus fraîcheur. C'est vraiment le bol de verdure, clairement. Donc, voilà. Ouais. Et là, on est sur un Asatsuyu, donc qui vient de Kirishima. D'accord. Donc là, pour le coup, c'est un jardin d'agriculture biologique, mais c'est pas pour ça que j'ai sélectionné.
Ouais.
Asatsuyu, c'est un théier.
Jardin, tu fais référence à un jardin, c'est comme ça qu'on on parle des terroirs, en
ouais,
fait.
Exactement.
De parcelles,
ouais,
le champ, ouais, le champ.
Le château, par exemple, pour le vin.
Ah,
là,
c'est un jardin d'été.
Voilà,
quoi.
Là, c'est un jardin, ouais.
Ah,
c'est
magnifique.
Un jardin d'été.
Jardin, ça,
ouais.
C'est ça, c'est la parcelle, quoi.
Exactement. Donc là, on le fait au Kyushu, manière traditionnelle. On couvre le fond du Kyushu de thé.
Kyushu, c'est ta théière.
C'est la petite théière.
C'est la petite théière poêlon avec le manche de côté. Voilà.
Nadège, quand tu l'as initié, tu imaginais qu'il allait devenir.
C'est là, c'est un maître.
C'est devenu
un maître. Je suis impressionné parce que finalement, pour chaque couleur, c'est une théière différente. Quoi. C'est
voilà,
un,
je tenais à vous
quasiment.
Montrer. Ouais. Et en fait, parce que là, on extrait vraiment le maximum du produit. Quoi. Après, c'est pareil. Hein, pour le Longjing, on aurait pu l'infuser. En général, c'est trois fois. Le Asatsuyu qu'on va boire maintenant. Donc, l'Asatsuyu, c'est un Sencha, en fait, issu d'un cultivar qui s'appelle l'Asatsuyu et qui est ombragé une semaine avant la récolte. Donc, c'est un kabuzecha d'un théier rare qui pousse en altitude dans les montagnes de Kirishima.
D'accord.
C'est, voilà.
Là, tu l'as transvasé, tu as changé de théier, c'est volontaire, c'est pour le service.
Oui, parce que si je vous sers un par un, en fait, celui qui va avoir
la fin,
il sera beaucoup plus infusé, il y aura beaucoup plus de tanin. Ce sera beau, voilà. Normalement, je vous le fais au fur et à mesure, mais bon, là, comme on est en train de.
Et là, la feuille a été broyée?
Non, la feuille est en aiguille, là, en fait. Mais en fait, le fait. Regarde. Quand on regarde de près,
comment tu fais pour arriver à ces résultats-là de la feuille?
Là, c'est des machines.
Ah, des machines.
Ouais, là, c'est des machines. Sur ce genre de récolte, ouais. Mais des machines de précision, quoi. C'est,
oui,
tu sais, à la japonaise.
Ça fait penser
au laser ou
à des persils ciselés comme ça.
Ouais,
voilà,
ouais,
cuisine,
c'est ça.
Quoi.
Non, là, c'est des machines qui. Alors là, il n'y a pas le geste dans le podcast.
Un petit robot, quoi.
Ouais, c'est un petit robot qui fait comme ça, qui roule la feuille. Voilà. Exactement.
Ah ouais,
donc là, on est vraiment sur autre chose. Hein,
ça n'a rien à voir, alors que c'est aussi un thé vert.
Ouais.
Je trouve plus gourmand.
Mais l'Asatsuyu a un côté un peu. Le fait de faire un kabuzecha, donc ombragé, ça donne un côté plus suave.
Ouais, c'est un peu plus fruité.
Il y a des notes un peu
plus
sucrées.
Plus
ouais, beaucoup plus rond. Et puis il y a ce côté umami.
Très umami, là.
Ah,
oui, c'est vrai. Okay, clairement, ouais.
Ça peut faire des bons accords avec. Non,
ça marche très bien. Mais il y a beaucoup d'accords possibles.
T'as même une longueur en bouche. C'est plus corsé. Enfin, c'est plus. Ça a plus de caractère, évidemment.
Ouais, mais ça, c'est le umami, je pense.
C'est ça qui reste un peu plus en bouche.
Ouais. Exactement. Et mais les accords, il y a des choses. Hein. Bon, là, dernièrement, on a fait un accord thé et armagnac, quoi. Et ça marche super bien. Ça peut être avec de la bouffe, avec de l'alcool, avec beaucoup de choses.
N'hésite pas à m'inviter à cet pilier-là.
Il y a aucun problème. Je peux même te laisser.
Alors,
délicieux celui-là, très bon.
Ouais. Donc voilà pour les thés verts. Donc vous voyez la différence entre la cuisson à l'étuvée
énorme.
Et la cuisson à
énorme.
Sec. On n'a pas du tout le même résultat. L'anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait la technique à l'étuvée, c'est encore une fois un vol de technique. C'était l'utilisation c'était la méthode chinoise à l'époque. Le moine Esai a rapatrié et eux ils sont restés là-dessus alors que les Chinois ont évolué sur une méthode à sec.
D'accord.
Donc c'est ça qui est assez.
C'est intéressant. J'ai vécu au Japon et j'ai appris qu'en fait il y a beaucoup de choses du Japon qu'ils ont piqué aux Chinois il y a très très
bien
très
sûr.
Longtemps.
Bien
fait.
Sûr. Ouais,
d'ailleurs les kanji, mais bon.
Ouais. Et d'ailleurs Asatsuyu, l'Asatsuyu il vient du sud du Japon, c'est l'île berceau du thé au Japon.
Ah.
Ça a démarré là-bas, ouais.
Super. Et là on fait un quatrième toujours. on a toujours dans les thés verts, c'est
non,
ça?
Non, là, on va passer au houlong.
Ah, houlong. On va passer au houlong.
Ouais. Alors, les houlong, très rapidement, avant de goûter, quand même, je vous réexplique le truc. Ce sont des thés semi-oxydés.
D'accord.
Donc, on n'est pas sur un thé vert complètement, enfin, pas du tout oxydé, ouais. Ou un thé noir, où on va pousser l'oxydation au maximum.
Donc, ça, c'est l'intermédiaire.
En général. Ouais. Bref.
Et le houlong, j'ai vu ça, il y a des gens qui l'appellent aussi les thés bleus.
Ouais, alors, ça vient de thé bleu-vert, parce qu'en fait, justement, c'est en rapport avec la fabrication. Parce qu'en fait, on a en gros trois types de houlong. Il y a les houlongs très peu oxydés, donc proches du thé vert, à entre 10, 12, 15% d'oxydation. C'est ce qu'on appelle les thés bleu-verts. Après, on a ceux qui sont dans les 30% à peu près, typiquement le baihao, ce genre de choses. Et après, vous avez des thés très oxydés, enfin, moins que les noirs, et voire torréfiés. Comme le Shuixian, qu'on va voir là, c'est un thé des rochers, qui est oxydé aux alentours de 70% et qui est légèrement torréfié à la fin du process. Et on a des goûts hyper différents. Et en fait, en jouant sur ce taux d'oxydation, la forme des feuilles, etc., on peut avoir une multitude de goûts, c'est juste incroyable. Ouais. Et c'est un monde sans fin. Hein. Je peux vous dire, ça fait 15 ans que j'en bois, j'en découvre encore tous les jours. Ah quoi. Ouais, bah... ah, c'est vraiment...
Vas-y, fais nous découvrir.
Alors là, on va être sur un houlong que j'ai reçu ce matin, l'échantillon de ce matin.
C'est celui-là, d'accord.
C'est le Tikwaning d'automne.
On est déjà.
Ouais, Tikwaning d'automne. Donc Tikwaning, ça veut dire déesse en fer de la miséricorde. Ça vient du Fujian. À côté de la ville qui s'appelle Tikwaning. La récolte d'automne, c'est une récolte... Alors, je ne l'ai même pas goûté. C'est la première fois que je goûte. Alors, je vais le goûter parce que...
Dans ton avis, ouais, parce que moi, j'ai kiffé, quoi.
Ouais, c'est très, très bon. Hein.
Alors voilà, pour moi, je suis chez le fleuriste avec un bouguet de muguet, quoi. Oui, c'est le premier mai, quoi.
C'est ce que j'allais dire, ça sent vraiment la fleur.
Ah ouais, on est vraiment sur la fleur avec un côté suave et légèrement gras, j'adore. Et c'est une longue... Oh là là,
d'ailleurs, t'as raison, ça sent le muguet.
Et c'est la première infusion, hein. Et en général, les deuxièmes, troisièmes... Alors ça, c'est des thés qu'on peut infuser. Des fois, je m'en fais le matin, je le fais jusqu'à midi, quoi. De 9h. Ah ouais, je rajoute de l'eau et... Il garde.
Et à chaque fois, tu vas goûter ça différemment. En fait,
ça évolue,
ouais. Enfin, surtout les premières vont goûter et à la fin, ça va stagner puis baisser.
Et là,
l'intensité va baisser.
Ouais.
Quand tu prends trop de la flotte,
tu arrêtes. Quoi. Bah, écoute,
en général, je m'arrête toujours avant que ce soit fini parce que j'en peux plus, quoi.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quelque chose qu'on partage, mais quand on le partage, c'est plus simple.
Oui, oui. Bah, au bureau, j'ai fait pour l'instant une infusion, quoi, mais on va commencer à en faire plusieurs.
Maintenant qu'on sait qu'on peut infuser plusieurs fois.
Et au niveau des multi-infusions, il n'y a pas un problème de tanins? Les tanins, ils sortent quand? Quand est-ce qu'ils sont le plus présents?
Bah en fait, c'est sur la fin des infusions. C'est vrai qu'il y a un ordre d'infusion. Il y a un ordre dans le processus d'infusion. Ouais. C'est-à-dire que dans les 30 premières secondes, il y a la théine qui sort. Inodore, incolore.
D'accord.
Donc ça veut dire que si tu rinces ton thé très rapidement, tu fais tremper ton thé tu recouvres ton thé d'eau. 30 secondes après, tu jettes l'eau, il n'y a presque plus de théine.
Ah ouais?
N'importe quel thé.
D'accord.
Après, il y a les arômes. Alors, selon le type de couleur de thé, c'est 2-3 minutes, il y a des arômes. Et à la fin, il y a des tanins.
D'accord.
Et du coup, il faut quand même des tanins, mais il n'en faut pas trop. Donc, les tanins vont faire la longueur en bouche.
Ouais.
Ça va donner une structure et une longueur en bouche.
Ouais.
Si tu n'en as pas, ça va glisser. Ce sera pas très intéressant parce que ça ne restera pas. Si tu en as trop, ça va prendre le dessus sur les arômes. Donc, c'est ça qu'il faut contrôler. Après, sur le gongfusha, quand on fait beaucoup de thé... avec peu d'eau et infusé très rapidement, le truc c'est que les tanins, on les sent petit à petit, mais ils se diffusent petit à petit et on les dilue à chaque fois qu'on rajoute de l'eau.
Donc,
du coup, c'est pour ça qu'on peut faire plein d'infusions.
Et là, ce qu'on va goûter, j'ai pas compris, j'ai pas suivi, ça c'est les mêmes thés, non, c'est déjà un cinquième, c'est ça?
Là c'est un deuxième houlong.
Là
on va voir la couleur, il est déjà un peu plus foncé, quoi.
C'est celui qu'on appelle l'Oriental Beauty à Taïwan, mais celui-ci vient de Thaïlande. Un projet royal, c'est génial, c'est le roi. On parlait d'opium. En fait, il faisait beaucoup dans le Triangle d'Or, beaucoup d'opium évidemment en Thaïlande. Et le roi, en fait, il a fait changer ça. Il voulait que les gens arrêtent de faire de l'opium, les paysans, mais il fallait bien leur trouver une activité. Donc, il y a du thé, des mangues, des fraises, etc. Donc là, il a fait venir des gens de Taïwan avec leur cultivar, leur pied, leur savoir-faire, et hop, vas-y, on fait du thé. Et ils ont sorti des thés, mais.
Ouais, incroyable.
Ça n'a rien à voir comme type de goût, vous êtes d'accord? Donc on est beaucoup plus végétal. Là on a des arômes, plus de cœur, tu sais, des choses vraiment beaucoup plus profondes, un côté un peu lourd mais sans être péjoratif.
Mais c'est que là où je suis un peu perdu dans les dégustations d'été, c'est que c'est pas forcément les mêmes arômes qu'on retrouve dans une dégustation des vins, en fait. C'est assez différent comme arôme.
Il y a du vocabulaire
parfois,
commun.
Les références, c'est pas les mêmes. Là, tu parlais des fruits blanches,
oui.
Mais là, c'est très légumineux, quoi. C'est quand même, non?
Je dirais, tu sais, c'est des fleurs un peu, avec des parfums très entêtants, type orchidée ou des choses comme ça. Tu vois,
Oui, c'est vrai, mais c'est ça, hein, c'est plus fleurs que qu'on va entendre dans le vin.
Ça se concentre beaucoup autour des fleurs, quoi.
T'es moins sur pierre à fusil ou comme ça.
Ouais, exactement, ouais, il y a un côté sucré presque réglisse. Je sais pas si vous l'avez, le truc, il y a un petit côté réglisse.
Avec celui-là.
Ouais, avec celui-ci, ouais.
Tout à fait.
Mais ça, c'est aussi un houlong. Hein, donc...
Un houlong, mais là, on est dans les 30%, le premier, donc 10-12% d'oxydation.
D'accord.
Là, on est dans les 30% d'oxydation.
D'accord.
Là, on arrive au bouilli, le top friction.
Ouais.
Qui est,
Ah, pardon, là, c'est comme des pueurs, là.
Voilà, top friction. Friction, mais moi, je le dis mal, hein, pour être tout à fait honnête. C'est un thé qu'on appelle le thé des rochers, qui va être donc oxydé jusqu'à 70%, et à la fin, il va subir une torréfaction.
D'accord.
Une légère torréfaction qui va lui donner un caractère vraiment très différent des autres. On va être plus sur le minéral. Il va y avoir un côté très minéral, mais aussi floral. Voilà, et voire fruité, mais de compoté de fruits, tu vois, des choses comme ça.
Ah, on va jusque-là ?
Ouais.
Bah, tu nous as bien vendu celui-là.
Ouais, j'ai hâte, là.
Mais attends, et c'est celui que je marie très bien avec l'Armagnac de mon copain.
Ah, voilà.
Je peux aussi, elle est pas là, la bouteille ?
Attends, si, elle est là, en plus. Elle est qu'elle est là.
Ça, c'est pour après l'enregistrement.
Voilà, c'est juste après. Chut. Donc...
Donc, il est en finalisation de préparation.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là on va tout savoir ça.
Merci.
Donc essayez d'imaginer l'Armagnac avec.
Ah, parce que là pour le coup, ouais, en effet, ça a plus de corps. J'ai pas de mal à imaginer que ça peut tenir une association avec un spiritueux.
Il est un peu torréfié celui-ci.
C'est ça, ouais, c'est celui-là. Ouais. En plus, la torréfaction.
Ouais, on le sent, hein, on le sent clairement.
Tout de suite,
mais elle est pas entêtante, elle est fine. Hein.
Je m'attendais à quelque chose de plus fort en torréfaction. Là,
ça va être plus sur des thés verts japonais torréfiés où vraiment on sent la torréfaction. Là, c'est oui, c'est délicat.
Ah oui.
Ça, j'ai pas suivi. Il vient d'où celui-là ?
Il vient de Chine.
Chine aussi.
Ouais, il vient de Chine également. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Les houlongs, c'est vraiment spécialité chinoise et taïwanaise. Hein. C'est vraiment. Si ça avait été l'hiver pour l'enregistrement du podcast, je vous aurais fait goûter un Alishan d'hiver, de janvier.
D'accord.
Qui est taïwanais. Mais comme on a que des choses de saison. Du coup, on reste là-dessus. Donc, vous voyez,
ça apporte de la rondeur, ces côtés grillés.
Ouais, complètement. Mais il y a un autre intérêt, c'est qu'en fait, ils vont le vendre au départ non torréfié. Ah. Mais après, pour le conserver, ils vont légèrement le torréfier pour que ça se conserve plus longtemps.
D'accord.
Parce que sinon, il va perdre trop en arôme rapidement.
D'accord.
J'aime pas forcément personnellement, je préfère la version un peu torréfiée que la version non torréfiée.
La torréfication vient figer un peu.
Ça permet de conserver les arômes plus longtemps.
Parce que sinon, ça évolue vraiment dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut le consommer dans le mois.
Ah, mais ça évolue. Mais vous voyez, le premier qu'on a goûté dans les houlongs, le Tikwaning d'automne, moi, je conseille à mes clients de le mettre de côté parce que j'en ai pas beaucoup. Vous buvez-le au mois de janvier, vous verrez. Et il explose.
Et tu le conserves.
Ah ouais.
Et tu le conserves comment chez toi?
Boîte hermétique ou sachet hermétique.
Au frais, quoi.
Voilà, au sec, sans odeur, pas à côté du camembert ou des épices, quoi. Mais voilà.
Tu peux avoir des surprises.
Ouais.
Et donc, juste par rapport au thé vert, ça, ce sont des thés qui, les thés blancs même, ce sont des thés plus délicats qu'il faut les consommer plutôt vite, ça. Il ne faut pas trop évoluer, quoi.
Ouais, exactement.
Par contre, les thés oxydés, sémis ou.
Ils vont se conserver plus longtemps.
Ils vont même évoluer parfois.
On dit toujours, vaut mieux boire les thés verts, les thés blancs, dans les 6 mois, quoi, maxi. Après, ils sont au top pendant 4 mois. Après, on a toujours des surprises. Il y en a qui évoluent bien aussi. Mais en général, c'est dans les 6 mois après la récolte. Après le process de fabrication.
Parce
que dans le cas du Japon,
ils attendent ce qu'on nous a expliqué. Ouais.
Et les thés noirs, ça va être plutôt un an.
Un an, ah d'accord.
Moi, je parle d'optimum de goût. Hein. Je ne parle de conservation. Parce qu'en fait,
c'est la vie.
C'est un produit sec.
Et en termes de moment de dégustation, en houlong, c'est plus.
C'est vraiment un moment.
Fin de journée.
Ouais, pour moi, c'est vraiment le moment où on se pose et on se réinfuse.
Ça, c'est relaxant. C'est pas un thé qui va t'exciter.
C'est un thé peu théiné, beaucoup moins de bourgeons.
Ouais.
Donc, c'est un thé moins théiné quand même en général.
Ouais, souvent, donc, tu vas recommander plutôt des thés noirs pour la fin de journée.
Non, houlong.
Houlong, pour la fin de journée et thé vert
le matin. Pour donner un petit coup de boost.
Exactement. Exactement.
Et là, du coup, on est passé sur quoi alors ?
Donc là, on passe sur un Darjeeling de printemps.
Darjeeling.
Donc ça, c'est la récolte qu'ils ont appelée. Alors à chaque fois, ils donnent un petit nom à leur récolte selon leur nièce. Donc c'est marrant. Donc là, ça vient du jardin de Namring. Mm-hmm. Récolte de printemps. Donc ça doit être le troisième jour de récolte, si je dis pas de bêtises. Énormément de bourgeons. Hein, vous voyez, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de blanc dans le dans les feuilles.
Voilà, c'est le bourgeon.
C'est du bourgeon,
a,
en fait.
D'ailleurs, il y a un mélange de feuilles et de bourgeons.
Exactement.
Juste rappelle-nous, Darjeeling, qu'est-ce qu'on appelle Darjeeling?
Ah oui, Darjeeling, c'est ouais. un type d'AOC, on va dire. C'est Inde.
C'est une région.
C'est le nord de l'Inde.
D'accord.
C'est accroché à l'Himalaya, quoi. C'est d'accord. vraiment, c'est dans les montagnes. Dans cette plantation, on monte jusqu'à 2300 mètres, je crois.
D'accord.
Voilà.
Et l'altitude.
On commence à 900 mètres, 800 mètres, et ça va jusqu'à.
Mais tu nous parlais, tu nous disais qu'en fait, pour les théiers, il faut des climats très humides. Avec beaucoup de chaleur.
Ouais, mais
dans ces endroits-là, est-ce qu'on va retrouver ces conditions-là?
Oui, en fait, mais bizarrement, oui, parce qu'en fait, l'humidité, il y a les nuages qui sont accrochés, vraiment. On est dans les nuages.
Donc l'humidité,
ouais, j'ai pris des photos extraordinaires, il y a tous les théiers, on est dans les nuages, quoi.
D'accord.
On est dans les nuages, et souvent, ça se découvre, et le soleil, bah, il tape, parce qu'on est en altitude.
D'accord.
Et quand, le soleil,
on retrouve les conditions nécessaires.
Exactement.
Et la nuit, elle est fraîche.
Et la nuit, elle est fraîche, d'accord. Exactement. Mais par contre, les théiers rentrent en dormance en hiver, hein, c'est clairement.
Ah là, il n'y a pas de
l'hiver, il est rude.
Il est très aromatique. Hein,
ça veut dire que les printemps Darjeeling des printemps, c'est la première cueillette de
cette
plante de la saison.
C'est la plus
recherchée
dans le monde. Ouais. Ouais. Alors, donc, un thé noir complètement oxydé, normalement. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petites surprises. Celui-ci, en fait, non. Les Darjeeling de printemps, souvent, ils gardent un côté végétal. Donc, ils l'oxydent, mais...
C'est un noir, mais pas
ouais,
noir.
Quoi. Voilà, c'est un noir, mais pas vraiment noir. Il n'est pas poussé au maximum de l'oxydation.
D'accord.
En fait.
D'accord.
Ouais. Mais ça reste le process de thé noir.
Donc,
là, on est sur des notes, mais j'adore ce thé, quoi. C'est vraiment hyper parfumé.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, ça, c'est super intéressant. C'est très riche, très gourmand, même.
Ouais. Tous les Darjeeling, ce sont des thés noirs. Ouais, tu nous as dit.
Non, ils font aussi des thés blancs.
Des thés blancs, ok.
Ils font aussi des thés blancs. D'ailleurs, on en a un avec que des bourgeons de thé blanc et ouais. des roses d'Iran. C'est fabuleux, le
d'accord.
rosiniste. Mais bon, leur spécialité, c'est plutôt le thé noir.
D'accord.
Ouais. Mais les récoltes de printemps, elles ont un côté très, très floral, comme ça.
Ouais.
Fleurs blanches, fruits blancs, pêches, abricots, tout ça. Enfin, c'est vraiment fou. C'est assez complexe.
Ouais.
On va pas l'infuser plusieurs
quelque
fois.
Quelque chose plus coursé en bourse pour.
Ouais, mais ça,
bouche,
c'est parce que tu connais pas les printemps. Tu connais plus le Darjeeling classique, qui est en général du second flush, voire de l'automnal. Et là, en fait, plus on va avancer dans la saison, plus on va avoir un côté boisé, fruité, fruits mûrs,
ouais.
sur des fruits mûrs, tu vois. On va commencer à passer. On a le muscatel qui est en second flush. Mm-hmm. Ce qu'on appelle le muscatel, ben, comme le muscat, le raisin muscat, tu vois. On a vraiment des notes de raisin très, très mûres, très sucrées.
En fait, hein.
Et après, on va côté beaucoup plus boisé sur l'automne. Voilà. Donc, ça change vraiment. Ça évolue. Et la nature est bien faite parce que par rapport à nos températures ici, ça correspond toujours hyper bien. Quand le printemps, il fait chaud et tout, ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. Et puis, plus on avance dans la saison, plus c'est boisé, chaleureux.
Ouais, et nous on a envie de ça. Ouais.
Et ça, je trouve ça génial.
Alors là, on est sur
seconde flush, c'est deuxième récolte.
Ouais, c'est ça, récolte d'été. Ouais. Donc
là, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Là.
Alors là,
la couleur.
Là, on est reparti en Chine.
Oh, là, on a l'impression d'un Armagnac.
Regardez les bourgeons. C'est que du bourgeon.
Ouais.
Bourgeon doré. Vous avez vu, c'est de l'or.
C'est quoi, c'est les deux derniers, c'est celui-là.
Je ne l'ai pas. Celui-là,
voilà. Regarde. Tu vois, là, t'as que des bourgeons dorés.
Ah,
c'est,
ouais.
c'est magnifique. Hein.
C'est magnifique.
Et on est dans le Yunnan.
Donc là, il n'y a plus de feuilles. Il n'y a pas de feuilles. C'est
ouais,
que
là, il n'y a que du bourgeon. Alors, il y a des versions du Yunnan sans bourgeon.
Donc, très fort un théine, celui-là.
Ouais.
Ah, super.
Ouais, très fort, mais.
Bah, je vais vraiment pas dormir.
Y a une... Non, mais il y a une légende qui dit que c'est le thé des chirurgiens parce qu'il réveille, mais sans énerver.
Ah, d'accord.
Voilà, il éveille. Bah,
voilà,
on va dire.
Donc
voilà.
Je dormirai pas, mais je serai détendu.
Ouais, tu seras détendu, exactement. Et là, on passe sur un autre univers. Là, on est sur des notes de cuir. Plutôt, on est
oui.
plus sur l'animal, le miel.
Ah ouais.
On a vraiment des choses...
Ah, les miels, c'est ouf, là.
C'est ton thé préféré, Nadège, d'ailleurs. C'est
ah ouais.
pas de bêtises. ouais.
Mais d'où vient ces miels, quoi? J'ai sens les miels, là. Mais
bah, c'est le tiroir.
En plus, ouais, encore plus. Ouais.
Ah, ouais. C'est fou, hein.
Mm-hmm. C'est fou, mais
c'est
ça
fou.
Vient d'où, quoi?
Ouais.
Bah, c'est la magie.
J'ai rien ajouté, je vous promets.
Non, j'ai la confiance. Comment, quoi? Franchement, ouais, c'est chouette.
Et donc là, c'est
la nature est bien faite.
Ça a l'air d'un thé qui peut gagner en vieillissant, en fait, et peut évoluer, non?
Bah, il est, oui, il bouge pas tellement, mais
pas
ouais, non, on le fait pas vieillir. Ça va être son petit copain d'à côté de la même région du Yunnan, qui est le pu'er qu'on va goûter.
Ah,
le fameux
comment
tu dis déjà, Daniel?
Pu'er.
Bien,
bah, je vais essayer la version chinoise, là.
Pu'er, mais je la fais mal.
Beaucoup plus clair, déjà.
Voilà, donc là on est sur un pu'er. Alors
pu'er.
Le pu'er, c'est un thé
fermenté. Hein,
ouais, c'est ça, c'est le fameux qui est fermenté. Celui-ci est sous forme de galette, comme vous pouvez le voir là.
D'accord.
Ah
compressé.
Ouais, la galette, quoi.
Hein.
Pourquoi c'est compacté comme ça?
Bah en fait c'est pour la conservation.
Ouais.
Même en fait à un moment donné ça servait de monnaie d'échange. ils échangeaient,
c'était une monnaie d'échange.
Ouais, c'était une monnaie d'échange. Et du coup,
ça c'est la forme la plus ancienne en fait du thé.
Ouais, du thé.
On va dire qu'il y a 2000 ans, c'est un peu comme ça qui.
Ouais. Il y a 2000 ans, non, je pense pas. Non, il y a 2000 ans, mais c'était ouais.
Pour être transporté.
En fait. Ouais, pour être transporté.
Ah ouais, c'est transporté,
conservé, transporté.
Et puis c'est compact, hein, du coup, par définition, ça prend moins de place.
C'est ça. Et du coup, comme je vous disais, on humidifie, on met dans le moule et du coup on les conserve et ça gagne. Ça c'est le cru. Il y a une méthode cuite, ce qu'on appelle cuite aussi, c'est une version de fermentation accélérée.
Ouais.
Donc là on est sur le Puersheng, le Puershu, c'est le cuit. Donc fermentation accélérée et du coup là on entasse les feuilles sous une bâche avec du humide. Mais ça peut être hyper intéressant aussi. Hein. Et du coup on a une version beaucoup plus rapide dans l'évolution.
Et comment tu passes de la galette? Qu'on voit là pour infuser, tu casses un petit
voilà,
peu de la galette.
Voilà, tu casses, en fait, un petit.
Tes frites.
Ouais, c'est ça, tes frites, en fait, un petit pic pour casser la feuille. Et puis, voilà, après, tu peux le faire avec tes doigts, tu casses et puis tu mets dans ta théière.
Bah, d'accord.
Super, ça.
Et donc là, on est vraiment sur des notes. Pour le coup, c'est.
Ah ouais, voilà, je vois. Merci,
Vincent. Alors, on est. Je le regoute pour pas vous dire de bêtises.
Ah ouais, tu vérifies.
Et le pouer très foncé que moi, je connais plus.
C'est le cuit.
C'est le cuit.
Ça, c'est celui qui est cuit. Mais un pouer cru. Qui va être très vieux, va devenir comme ça, très noir. Parce que le pouer cuit à une tasse, on dirait du café, quoi. C'est vraiment noir comme du café.
D'accord, ouais.
Voilà. Mais par contre, on va avoir des similitudes dans le goût, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir ces notes animales, ces notes presque d'étable, des fois, dans les vieux pouer. Là, on reste encore sur le végétal.
Qu'est-ce que la fermentation apporte gustativement au...
Bah, ces notes, justement.
Plus animales.
Ouais, ces notes plus animales, plus. Tu vois, la mousse après l'orage dans une forêt, tu vois. Il y a ce genre de choses aussi, ce genre de notes, l'étable,
des choses que t'as dans le vin et que t'as moins dans le thé, mais là, du coup, tu le retrouves. C'est ces notes, tu les as, ouais. Mais ça reste très léger, hein. C'est pas.
Oui, mais là, ça reste léger dans cette version qui n'est pas une vieille galette.
Oui.
D'accord,
une vieille galette.
La vieille galette, tu vas retrouver beaucoup plus présent.
Il y a des acteurs en Chine ou ailleurs qui font vieillir ces galettes-là et qui te sortent des galettes millésimées.
Clairement. Ah ouais. Et ça part avec malades.
Ah ouais.
Ah ouais, il y a de la spéculation dessus.
Ah ouais.
Ah, il y a des galettes qui sortent à 50 000 $, 100 000 $, des trucs, mais de fou, hein. De fou.
Ah ouais.
Ah ouais. Puis t'as des galettes grandes comme moi, quoi, aussi.
Ouais. Quelle est la galette la plus âgée que tu as pu goûter?
Ah, la plus âgée. Elle avait à peu près 30 ans.
30 ans, d'accord.
Ouais, 30, 40 ans, ce qui était déjà pas mal. Ouais. J'ai goûté, non, en Chine, j'en ai goûté une. On m'a dit, mais j'ai pas vérifié.
C'est pas qu'on avait parlé de galettes comme ça aujourd'hui. Mais
on m'a dit qu'elle avait une centaine d'années. Après, je suis pas dans les petits papiers.
Oui, bon, ouais,
mais c'était
très bon.
Mais ce
qu'on peut imaginer, c'est des dégustations verticales dans les vins.
Exactement,
quoi.
Quelle richesse l'univers du thé, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, ouais.
Et encore, là, c'est une petite partie, parce que dans chaque famille de thé, je pourrais vous présenter des choses hyper différentes. Là, je vous ai présenté un thé chinois, mais on appelle ça le pays aux 5000 thés, quoi. Tous les ans, 5000, et puis selon les saisons, ça va pas être la même chose.
C'est clair.
Les goûts vont évoluer. Enfin bon, c'est
clair.
Fou.
Bah ouais, c'est même, tu vois, tu as 15 ans et tu apprends encore des choses.
Ah ouais, clairement. Plus j'en apprends, plus j'ai l'impression d'être novice, quoi. Parce que franchement.
C'est clair.
Ah ouais, parce que je suis quand même généraliste sur tout l'été. Donc,
ouais. Écoute, je suis impressionné déjà par tout ce que tu sais sur le thé, tout ce que tu viens de nous faire découvrir. Et c'est vrai que ça donne envie de rentrer dans cet univers que moi personnellement je connais pas très très bien, mais il y a plein de choses intéressantes.
Ah, il y a du taf là.
Il y a du taf. Mais dans 15 ans, t'es au point, tu verras.
Je commence.
Il faut venir une fois par semaine chez toi. Hein.
Tu peux.
Je propose maintenant que tu nous expliques. On va peut-être revenir dans la boutique pour que tu nous expliques un peu ta démarche, comment tu sélectionnes tes thés, ta relation avec tes producteurs, pour qu'on comprenne tout ça et pour que tu nous explique surtout l'offre que tu as imaginée pour nos auditeurs.
Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Allons-y.
Super, on y va.
Allez.
Bon, bah merci Pierre pour cette dégustation. Maintenant, parlons
avec
un peu
plaisir.
Plus en détail du parti du thé et notamment de ta relation avec les producteurs.
Oui. Donc,
avec quel type de producteurs tu travailles et comment tu t'organises pour bosser avec eux, toi?
Alors, moi, ma force, c'est le sourcing, donc c'est vraiment ce que j'aime faire.
Ouais,
c'est vraiment bouger, aller visiter, rencontrer, comprendre.
Ouais.
Et puis, si possible, se faire des amis aussi, parce que ça arrive quand même pas mal.
On a vu que tu parlais chinois en plus, donc voilà.
Ouais,
ça...
couramment, t'as vu. T'as vu ça.
Enfin, tu le prononces mieux que nous, déjà.
moi, mon but, en fait, depuis le début, c'est vraiment d'être en direct avec les producteurs. Connaître, avoir visité, avoir compris. Leur manière de travailler, assister à la cueillette, assister à la production, et puis nouer des relations à long terme. Je suis pas en mode acheteur où je vais aller l'autre il est moins cher, donc laisse ton prix, je m'en fous. Ce qui m'intéresse moi c'est la qualité du produit.
Bien sûr.
Et après à moi de m'organiser pour que ça arrive et que ce soit voilà, que ce soit.
Est-ce qu'il y a des producteurs avec qui tu travailles depuis les débuts de l'aventure Partie du thé ou
depuis 15 ans?
Ouais, depuis 15 ans, oui, notamment en Chine, mais ça a évolué un petit peu quand même pour rien vous cacher. On va dire que ça fait vraiment 10 ans où vraiment je suis en direct, direct complet sur la majorité des produits, des grands crus.
Oui, mais une relation des 10 ans, c'est déjà une relation.
Ah oui, tout à fait. J'ai des relations, du coup, sur le Rwanda, sur l'Inde, beaucoup sur l'Inde et énormément sur le Japon. Ouais. On est très, très, j'allais dire implanté, c'est pas nous qui sommes implantés, mais en tout cas.
C'est là où tu as tes meilleurs contacts.
Ouais, c'est là où j'ai vraiment pas mal de contacts, où j'ai creusé vraiment, vraiment le sujet.
Ouais.
Où j'ai visité peut-être, je sais pas, 45 ou 50 plantations différentes.
Ah ouais.
Ouais. Et en plusieurs voyages. Oui. Mais et j'en ai sorti 3 producteurs avec qui j'adore travailler aujourd'hui. Ouais.
Tu continues d'aller régulièrement les visiter? À quelle fréquence tu vas dans les pays producteurs, toi?
Alors normalement, en fait, en gros, je me fais un gros voyage par an.
Ouais.
Donc et j'explore un pays où, même si je le connais déjà, je réexplore. Donc c'est une fois par an où je fais 3 semaines à peu près, non-stop. Bon, cette année, ça va être un peu compliqué, je crois, mais du coup, oui, voilà, c'est ça. Tous les ans, je fais un voyage comme ça pour voir les fournisseurs que j'ai et comprendre encore mieux, parce que des fois, ils ont des nouvelles choses et que j'ai pas bien compris et que je pourrais mieux expliquer ou je pourrais plus transmettre en arrivant.
Ouais.
Et après, et toujours, je vais en visiter des nouveaux pour voir s'il y a pas des choses intéressantes à découvrir et à développer.
Et comment tu fais pour déguster un thé quand tu vas visiter un producteur et tu veux découvrir un peu la qualité du thé qu'il produit? Ouais. Comment tu fais pour déguster? Je pensais au café qui font du cupping avec les producteurs, c'est similaire à ça.
C'est un peu ça, on peut appeler ça du cupping, hein, c'est un peu le même principe.
D'accord.
Petit testing, enfin voilà, c'est vraiment, ouais, mais c'est du cupping en fait, hein, c'est exactement ça. La première étape, c'est qu'on goûte déjà sur place, ils le font à leur manière, à eux.
Mm-hmm.
Donc, au Japon, ça va être au Kyushu, en Chine, ça va être dans les Zhong, ou au Gongfusha, selon le type de thé.
Ouais.
Mais, comme on a vu tout à l'heure pendant les couleurs du thé.
Ouais.
Mais, en général, donc je goûte sur place, mais j'achète jamais sur place, sauf avec des producteurs que je connais vraiment depuis longtemps. Mais je ramène des échantillons et on refait, ce que j'aime pas goûter tout seul. C'est important de partager avec d'autres ici.
Tu fais un petit comité de dégustation.
Oui, alors le comité de dégustation, ça peut être souvent les gens de l'équipe,
ouais,
partie du thé, mais ça peut être à la maison avec ma femme, avec mon fils.
Femme, ouais,
ça peut être voilà, c'est vraiment c'est juste d'avoir d'autres opinions,
ouais,
et d'autres
goûts, peut-être,
voilà,
ouais,
d'autres
voilà,
goûts, d'autres approches. Donc ça c'est hyper important. Et surtout, on va le faire d'une manière dans les sets de dégustation que je vous ai montré tout à l'heure.
Ouais.
Vous savez, avec les petites dents, on dose le thé, etc.
Ouais.
Et du coup là, on va se faire des dégustations. On va en aligner 10 d'affilée comme ça, on va surdoser le thé et du coup on va tout de suite voir s'il y a des défauts,
ouais,
mais aussi des qualités évidemment.
Bien sûr.
Et les goûts vont ressortir beaucoup plus facilement. Du coup, et là on va se faire une idée vraiment précise du thé. Et par rapport à ça, on va le sélectionner, puis on va quand même regarder le prix à un moment donné parce que
évidemment,
ça reste vendable,
ouais,
et honnête, sachant que nous, notre principe, enfin moi c'est mon principe en tout cas, c'est que voilà, au même prix, j'ai envie d'être meilleur que les autres, ou alors même produit, je vais être moins cher pour que les, ouais, gens aient un intérêt, comme on est en direct vraiment,
mm-hmm,
et qu'il n'y a aucun intermédiaire, ce qui est très 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 peu le cas dans le métier,
ouais.
Voilà, c'est voilà, on a de quoi vendre à des prix intéressants et honnêtes et
une
voilà,
super qualité, ouais,
exactement,
quoi,
des super qualités.
Et en fait, est-ce que tes producteurs, ils arrivent à venir à Paris de temps en temps? Est-ce que tu,
oui,
as eu la chance?
Ouais, ouais, quelques-uns ont réussi à venir, notamment les producteurs de Kagoshima, avec qui j'ai des relations depuis le début où je travaille au Japon.
Kagoshima.
Alors, Kagoshima, c'est complètement au sud du Japon, au sud du sud de l'île de Kyushu.
Ouais.
Voilà, c'est Kagoshima, c'est où il y a l'institut du thé dont je vous parlais.
D'accord.
Où il y a tous les cultivars qui sont répertoriés. Et eux, ils sont dans les montagnes, ils sont venus ici, on a fait toute une opération dans notre comptoir du canal Saint-Martin où on a fait goûter,
ouais,
tout leur thé,
ouais,
rue de l'Ancry, exactement, on a fait goûter toutes leurs spécialités, et c'est le maître de thé de la maison de Kagoshima,
ouais,
qui était là pour alors le maître de thé, c'est lui qui aussi dit quand il faut arrêter la cuisson des feuilles, comment il faut les rouler, etc.
Ouais, c'est lui qui dirige la cérémonie de dégustation avec tout un rituel,
exactement, mais il est en fabrication aussi, du coup il est vraiment du début à la fin de la chaîne,
mmh,
et il nous a fait découvrir des choses
génial,
extraordinaires.
Super. Et la logistique, comment tu fais pour faire venir ces thés en France? Est-ce qu'ils viennent par bateau? Comment tu les stockes? Comment tu fais pour garantir que ces thés arrivent ici avec une fraîcheur absolue pour...
Ouais. Eh ben, déjà, j'en achète pas par tonne du même produit parce que j'ai envie que ça tourne. J'ai
des
envie
petites quantités, quoi.
C'est des plutôt, on travaille plutôt sur des petits lots. Mm-hmm. Pour le Japon, on est livré vraiment tous les mois.
Tous les mois.
Ouais, tous les mois. Parce qu'en fait, eux, dans les plantations notamment de Kagoshima, ils vont récolter une grosse fois, on va dire, au printemps. Mmh. Donc, alors, il y a plusieurs cueillettes au printemps, mais tout leur stock de thé brut, donc c'est-à-dire qu'ils vont ils vont cuire une première fois les feuilles pour plus qu'elles évoluent, ils vont faire des espèces de gros ballots de thé et ils vont les mettre dans des chambres froides. Voilà, pour bloquer, pour pas que ça évolue. Et à chaque fois que je vais leur passer une commande, ils vont sortir cet aracha, ce thé brut, et ils vont fabriquer le thé.
Fabriquer, c'est quoi? C'est séché,
c'est déjà fait, mais ils vont donner la forme aux feuilles, c'est trier les feuilles.
Ah.
Voilà. Là, ils ont juste stoppé l'oxydation. Et d'accord. Après, ils vont travailler la feuille.
Faut mettre en forme et après en...
Exactement. Exactement. Et trier les feuilles. Et après, du coup, ça va partir chez nous. Donc, à chaque commande, ils vont fabriquer le thé à chaque commande.
C'est top. Donc, du coup, ils gardent ça au frais chez eux.
Exactement.
Et ça voyage qu'au moment de...
Exactement. Pour vendre. Et ça arrive donc assez rapidement.
Donc, tes thés verts, ils ont le plus vieux. Il a un mois de vie, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, nous, on le conserve après à la cave au frais pour que ça reste encore frais. Du coup, on a des thés de printemps toute l'année presque, j'ai envie de dire.
Bah, chouette.
C'est...
Et il y a les thés parfumés aussi, tu nous as expliqué, donc les thés parfumés c'est un mélange.
Alors il y a plusieurs sortes de thés parfumés, il y a les thés traditionnels, donc par imprégnation, comme les thés au jasmin,
ouais,
ou à la rose par exemple, qui sont des traditions chinoises.
Ouais.
Et après, il y a les thés parfumés, les Français sont assez spécialistes de ça et reconnus, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des essences naturelles, des arômes naturels de produits, des extraits de fruits, des extraits de fleurs,
ouais,
qu'on va brasser, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une espèce de...
Un gros contenant
qui tourne, sur lequel on va sprayer, diffuser, merci.
Ouais.
on va diffuser ces arômes naturels de pêche, par exemple, et on va brasser pendant un grand moment pour que ce soit bien homogène.
D'accord.
Et que le thé soit parfumé. Alors oui, on rajoute quelque chose, mais ça reste du naturel. Hein. Ça reste du naturel. On ne travaille jamais sur de l'arôme artificiel, évidemment.
Moi, ce que je voulais dire par cette question-là, c'est vraiment qu'il y a des assemblages parfumés, mais il y a des assemblages aussi non parfumés,
comme tu
disais. Et ça, c'est des choses que tu peux faire ici, tu fais toi-même.
Pour ouais,
certains assemblages, c'est toi qui
bien
les fais.
Bien sûr, exactement. Oui, tout à fait.
Et tu me parlais d'un assemblage thé noir ou Darjeeling que tu étais en train de mettre en place.
Ça, c'est fait sur place là-bas.
D'accord.
Ça, c'est un Darjeeling où ils ont plusieurs récoltes et ils vont nous faire un assemblage de plusieurs récoltes pour qu'on
eux de leur côté.
Eux de leur côté, on a défini le goût.
C'est toi qui définis la recette, quand même, ouais. Enfin, l'équilibre.
Alors, j'ai défini le goût. J'ai dit que voilà, je voulais que ce soit un peu boisé, que ce soit un Darjeeling classique, en fait.
Ah oui, et c'est eux qui vont équilibrer
Par rapport à ma demande.
D'accord.
Et du coup, c'est pour avoir un Darjeeling qui soit toujours à peu près au même goût.
D'accord.
Voilà, il y aura toujours des variantes selon les saisons, etc. Mais on aura toujours ce goût. J'essaie de faire le petit Darjeeling du parti du thé, voilà, qui va toujours avoir le même goût. Mais après, il y a d'autres assemblages qu'on peut faire. C'est par exemple mélanger un thé au jasmin avec un thé fumé, par exemple, pour avoir un équilibre entre la fleur et le fumage. Ou on peut faire notre mélange Pretty Good Breakfast, qui est entre un thé du Yunnan avec un côté cuir, un Darjeeling de printemps côté végétal frais, et aussi un Kimun chinois qui va avoir un côté chocolaté. Donc ça donne un mélange de petit déjeuner qui est hyper gourmand. Donc ça, on peut faire aussi.
Ça, c'est toi qui définis l'art, pour le coup.
Ouais, tout à fait,
T'as combien de références en tout?
Alors, selon les saisons, c'est toujours pareil. Au printemps, on en a plus en général. On va jusqu'aux 300 à peu près.
300 références?
Ouais, 300 références.
Oui, mais avec tout ce que tu nous as expliqué, ça ne m'étonne
comprend.
Pas du tout.
Ouais.
Quoi. Ouais.
On comprend
encore,
maintenant.
Si je me lâchais et si j'étais pas raisonnable, je serais à 2000 références.
Mais parce qu'entre les différentes couleurs, les différentes origines, les thés parfumés,
les
assemblages, les saisons,
infinis.
On a à peu près 50-60% de thés d'origine, nature, et le reste en assemblage parfumé.
Il y a des clients, toi, qui achètent des thés d'origine et qui font eux-mêmes les assemblages à la maison parce qu'ils se disent « j'ai kiffé mon thé vert avec
mon thé noir ». Exactement, ouais, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai qui m'achètent, par exemple, justement, qui m'achètent un Lapsang Souchong fumé classique, mais qui trouvent ça un peu fort, donc ils vont acheter un autre Kimen à côté pour le mélanger. Ou alors, il y en a qui font leur mélange anglais, le mélange anglais classique, c'est du Kenya.
Ah non.
Non, le mélange anglais classique, enfin oui, Earl Grey, c'est très classique anglais aussi, mais le mélange anglais classique, c'est du thé du Kenya, de Nilgiri et du Sri Lanka, du Ceylan. Il y en a qui le font eux-mêmes.
Ah, chouette.
Parce qu'ils aiment bien leur dose, ils préfèrent un peu plus de sélan.
Oui,
voilà.
Bien sûr. Une fois que tu es un expert et que tu maîtrises tout ça, tu
exactement,
fais à ton goût,
ouais,
quoi,
carrément.
Et t'éclates. C'est
ouais,
un peu
carrément.
Ta cuisine.
Et de toute façon, voilà, le but, c'est que les gens, ils
prennent du
plaisir,
plaisir,
quoi.
Voilà,
voilà,
on est d'accord.
Du moment, c'est là que le truc, il est gagné, quoi. Si les gens, ils ont, si les gens, ils aiment ce qu'ils boivent, moi, je suis heureux, quoi.
Et justement, tu dirais que tes clients, qu'est-ce qu'ils préfèrent chez toi? C'est la variété de l'offre, la fraîcheur des produits, la connaissance que tu as avec tes équipes, d'ailleurs, parce que c'est le cas aussi, toutes tes équipes.
Ouais, il y a l'expertise qui est hyper importante. Parce que les gens, ils aiment bien avoir un peu de répondant. Même qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, quand on connaît rien, on est content qu'on nous explique. Et quand on connaît bien, on est content de la précision. Mais derrière, je pense qu'il y a tout ce qu'on expliquait au début. C'est que, voilà, c'est notre approche qui est hyper simple, quoi. Donc, les gens, je pense qu'ils aiment, ils apprécient ça. On se prend pas la tête, quoi, pendant 10 ans pour expliquer qu'un thé, il est génial et on leur vend pas. Et je sais qu'il y a des gens qui vendent un thé blanc qui a été récolté une nuit de lune par des vierges avec des ciseaux en or, quoi. Non, mais ah, voilà.
Ouais.
Bon, voilà. Tu vois,
c'est bien d'être expert, mais il faut pas aller
voilà,
trop loin.
Voilà,
plus.
Non, faut parler du produit simplement et expliquer avec des mots simples des choses. C'est comme
ça.
C'est
ce qu'on a vécu là depuis quelques minutes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes sur la plante, ses origines, sans rendre le truc trop compliqué.
Et c'est que j'ai appris récemment, en fait, que tu nous cachais ces secrets, c'est qu'en fait, on peut trouver ton thé chez pas mal des tables à Paris, en fait.
Ouais. Et des belles tables.
Des belles tables. J'étais
ouais, quelques
jours,
ouais.
Je pense que c'était chez Holy Belly, et j'ai vu sur la carte,
ouais.
T'étais indiqué
ouais,
partie du thé.
Depuis le début, hein, on bosse ensemble.
Ouais. Après, qui sont tes clients, on va dire, plus connus ou plus importants aujourd'hui
Dans les plus connus, c'est pas mal à Paris, c'est vrai. On a notamment, en pâtisserie, il y a Yann Couvreur.
Ouais. Ah ouais.
Voilà.
Respect.
Parce que lui, il vend des thés avec sa marque, en fait.
Ouais, exactement. On a créé des mélanges signatures, en fait.
Ah, tu as bossé
ouais,
sur la création.
On a bossé, en fait, en accord avec son dessert signature. Avec son dessert signature, pour que ça s'accorde bien. Et puis, on a créé la carte d'été pour que ça aille avec.
Donc, c'est toi qui lui as fait son assemblage en fonction d'un brief. Enfin, c'était dit.
Ouais, et de ses goûts.
Ouais, ses goûts et d'accord, ce qu'il voulait mettre en avant.
Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Là, je suis hyper content. C'est tout nouveau. C'est Stéphanie Le Quellec.
Ah, quand même.
Ouais, pour son restaurant.
Bravo.
La scène,
chef
deux
étoiles.
Au Michelin, quand même. Ouais, c'est la classe. Je suis hyper content.
Next step, c'est quoi? C'est Passard, quoi.
Voilà, j'attends.
Bravo.
Bien, bravo, quoi.
C'est plutôt bon signe d'avoir la reconnaissance de ces gens-là.
Exactement. Mais au-delà de ça, alors on travaille avec des super pâtissiers, des super chefs, etc. Mais au-delà de ça, toujours dans le même esprit, je suis hyper content de voir mes thés dans le café du coin qui a envie de faire plaisir à ses clients et qui sert des super thés.
Bien sûr.
Dès que les gens s'intéressent, et Holy Belly, c'est génial, ils le prennent aussi simplement, mais ils servent une carte, elle est dingue leur carte, quoi.
Oui, parce que tu le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'en faire un produit d'élite, c'est de le rendre plus accessible.
Ouais. On est sur des produits d'élite, mais voilà.
Ouais. justement, en parlant de ça, donc comme tu sais, des Good Bouffe, on propose à nos auditeurs une offre exclusive ou des offres exclusives imaginées par notre invité.
Ouais.
Donc on a eu la chance d'avoir des offres imaginée par le parti du thé. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces offres en détail?
Bien sûr. En fait, on a décliné en trois offres. En fait, on a une source est surtout axée sur la découverte,
bien sûr.
D'abord, pour que les gens, s'ils ont été intéressés par tout ce qu'on s'est dit là, puissent découvrir les couleurs du thé, parce que pour comprendre.
On a envie de tester là, maintenant qu'on a entendu tout ça.
Voilà, exactement. Donc, il y a un coffret découverte avec des thés verts, des thés noirs de différentes origines.
Super.
Pour qu'on comprenne vraiment l'ensemble.
Comparer un thé vert japonais, un thé vert
et un thé vert chinois, du houlong, du thé noir.
Super, ça.
Voilà. Et aussi quelques classiques parfumés pour une offre complète.
Bien sûr.
Et avec une boîte à thé, une jolie boîte à thé partie du thé.
Ouais.
Avec une option aussi. Alors, c'est avec ou sans une théière en verre.
Si on a une théière à la maison, on prend pas.
Exactement.
Si on
va avoir le bon matériel pour bien le servir. Ouais.
Voilà, exactement. Et il y a un autre coffret qu'on a fait. Alors ça, c'est pour les gens qui connaissent déjà, qui veulent vraiment découvrir des très 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 grands crus. Alors c'est aussi couleur du thé, mais là on est vraiment sur du très 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 haut de gamme, donc les récoltes de saison. Donc j'ai travaillé vraiment sur ce qu'on avait en ce moment, ce qui était de saisonnalité. Donc il y a du Darjeeling de printemps, il y a le Tiquanying d'automne qu'on a goûté tout à l'heure, l'échantillon, donc le temps que le coffret soit prêt, j'aurai reçu le stock. Donc là il n'y a pas plus frais. Voilà, c'est vraiment là que sur des grands crus.
Est-ce qu'on aura les thés blancs découpés par des
ciseaux d'or,
Exactement.
Très bien, c'est une bonne nouvelle, ça.
Voilà. Et il y aura aussi une jolie boîte faite par des artisans japonais.
Ah bah très bien. Bah écoute, c'est des belles offres qui sont maintenant disponibles donc sur les sites des Good Bouffe et voilà. Et ouais, donc un off, tu me disais, tu avais une autre idée aussi.
Ouais, parce que bon, alors pour ceux qui sont déjà équipés, qui ont déjà du thé, etc., ou qui veulent pas prendre ce coffret-là spécialement, on fait un code spécial pour notre site internet. Vous aurez une remise de 10%. Il suffit de taper comme code The Good Bouffe.
Ah bah super. Voilà, c'est un cadeau pour les éditeurs qui ont écouté les podcasts jusqu'au bout.
Exactement.
Voilà.
Bravo.
Il mérite.
Exactement.
Ils doivent être les plus motivés, donc c'est bon signe.
Donc voilà, 10% ça. Si on va sur les nouveaux sites Le Parti du Thé, on fait notre sélection, on met un code voilà, des Good Bouffe et on aura 10%
attaché en différence. Majuscule et vous aurez moins 10%.
Bah merci. Magnifique. Pierre, c'est sympa.
Ouais. Bah, écoute, avec plaisir, ça me ferait plaisir.
Pierre, c'était un grand plaisir, on a appris plein de choses
et on a dégusté des bons thés. Merci
très
beaucoup.
Je suis ravi si ça vous a plu. Ouais.
J'ai découvert plein de choses que je n'imaginais pas que l'univers du thé était aussi riche.
C'était un grand plaisir.
Merci à vous les gars.
Salut, à bientôt.
Merci.
On espère que cet épisode vous a plu.
Toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgoodbouffe.com.
À très bientôt.